Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, un podcast d'actualité. Avec moi aujourd'hui, nous avons Romain.
Salut.
Nous avons Julien.
Bonjour.
Et nous avons Carole.
Coucou.
Avant de passer au sommaire.
On est ton pire cauchemar. Hein,
très, oui, c'est vrai.
Et on t'a mis en, alors,
pas de,
en pince.
Ouais, non, mais pas si, de, si, pas si, de si. Un gars, une fille aujourd'hui. Hein, si, je vous le dis tout de suite.
Si, hein. Si, si. Non, non, les gens l'ont demandé dans les forums de manière majoritaire.
Aujourd'hui, de ne pas dire de bêtises.
Donc, vous aurez votre posant de podcast incroyable.
Bon, très bien. Bah, tiens, avant de passer au sommaire qui s'annonce chargé pour cette semaine, Julien, tu as un petit mot à adresser à nos gameblogueurs, évidemment,
oui,
et nos gameblogueuses, en rapport à une émission qui s'est très très bien passée.
Ouais, c'était cool.
C'était la première.
C'était cool et on vous en remercie. Il s'agit de la Libre Antenne. Alors, vous savez, hein, Gameblog, depuis maintenant, plus de 6 ans, quasiment depuis le début de sa création, on a donné la parole à nos lecteurs avec des émissions courrier des lecteurs. Mais on avait envie d'aller un petit peu plus loin cette fois avec cette Libre Antenne. C'est une émission qui vous est totalement dédiée, où on vous voit en vidéo directement, vous pouvez prendre la parole. Alors c'est une émission qui se fait en direct, qui a duré 2h30 enregistrée pour le replay, mais qui en vrai a duré quasiment 4h avec une sorte de pré-show, avec après derrière un débrief, etc. Il fallait pouvoir le vivre en direct, visible par tout le monde, participative uniquement avec nos membres premium. On va, et on vous l'avait promis, hein, à chaque fois apporter comme ça des petites touches en plus pour rendre l'abonnement premium encore plus intéressant pour ceux qui y souscrivent. Vous le savez, on a pris le pari de vous offrir, c'est gratuit, l'ensemble du contenu de Gameblog, mais il y a des petites poches d'exclusivité. Bah, participer à la Libre Antenne, c'est exclusif au Premium. Avoir le podcast en vidéo et une semaine en avant-première, c'est exclusif au Premium. Et voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui s'ajoutent. Mais surtout et avant tout, je voulais remercier ceux qui étaient là ce soir-là, que ce soit derrière leur micro ou juste à nous regarder, parce que vous avez été extrêmement nombreux. Les retours ont été très bons et on en est ravis, parce que c'est important, je trouve, que la communauté, les joueurs puissent s'exprimer, parce que nous, on le fait toutes les semaines, hein, via des podcasts, via
puis
des émissions,
marre,
etc.
Moment, hein.
Bah, on avait vraiment envie de vous donner ce temps, ce moment avec vous, avec des premiums, vous avez vu, hein, qui étaient avec nous en vidéo, et même sur le plateau. C'était Fenril qui était à côté de moi, là, vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc tout est possible avec Gameblog. N'hésitez pas à devenir premium. On se sent bien, je crois que c'est Ninjado qui disait ça. Premium, c'est bien. Non, premium soutien, c'est bien. Ou c'est très bien. Bon, je sais pas.
Il va
me corriger, il va me dire
un slogan,
dans le forum.
Genre, Seb, c'est bien. Non,
Seb, c'est bien. Bah oui, les meilleurs slogans sont intemporels.
Déjà une date pour le prochain ou pas encore?
Bah, on va essayer d'en faire au moins une fois par mois.
D'accord, très bien.
Probablement, en tout cas, qu'on en fera un. Ça a été beaucoup demandé. Au retour, en tout cas, de l'E3, ça c'est sûr, mm-hmm. pour avoir un grand débrief avec vous, hein, les game blogueurs. Savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, en bien, en mal, tout ça. Bon, rendez-vous, soyez vigilants. Et puis, en tout cas, pour ceux qui l'auraient raté, le replay est disponible. Voilà, c'est la Libre Antenne de Gameblog.
Bon, c'était le petit mot du rédac chef. On va passer au sommaire. Tu parlais de l'E3, justement. Ça tombe bien parce que dans les thèmes de cette semaine, nous avons quelque chose en rapport avec l'E3, c'est Nintendo oui. qui ne sera pas vraiment à l'E3 pour montrer la NX, qui sera là pour montrer un seul jeu, dis donc.
Un seul
incroyable.
Jeu jouable.
C'est bon.
Il y aura jouable. Sûrement d'autres jeux, mais un seul sera jouable, Zelda.
Quel jeu aussi
Zelda. Et surtout pour nous dire que la NX, c'est pas cette année. Hein. Donc on va en discuter tout à l'heure. Deuxième thème, on va parler des petites avant-premières qui ont eu lieu cette semaine en termes
grosses avant-premières.
Ouais, moi j'aime
pourquoi
bien dire petites.
Ah, je déteste ce mot.
C'est vrai?
Ah ouais, les petites choses. Bah, je trouve ça étriqué.
C'est mignon les trucs petits, non?
Moi je suis pas là pour être mignon, on est là pour être.
Je suis pas là pour être mignon.
Pourquoi
qu'il en soit, des avant-premières de la semaine avec la.
Une avant-première kawaii.
Tu pourrais le mettre sur ta carte de visite sous ton nom, entre guillemets. Ouais, je suis pas là pour être mignon.
Non,
et Emmanuel Petit, alors qui a mis le 3ème but de l'équipe de France.
Mais c'est un tocard, Emmanuel Petit.
Quoi? Il a mis le 3ème but de l'équipe de France en 98.
Bon. Enfin, c'est son
petit
nom,
ce
c'est
que
pas
tu dis, Julien.
Toujours est-il, il y a eu la bêta de Mirror's Edge, la bêta fermée de Mirror's Edge qui est apparue cette semaine, plus l'alpha de Nioh qui a donné un peu de fil à retordre à Julien qui ne s'attendait pas vraiment à ça.
C'était dur, mais c'était.
Et il y a eu, en troisième thème évidemment, la sortie de l'épisode 2 de Hitman, Sapienza, auquel eh bien, j'ai pu jouer, je vous ai livré mon test déjà, mais Carole aussi a joué pas mal, et on n'est pas vraiment d'accord. Bon, en fait, si on est d'accord, mais c'était juste pour faire un effet d'annonce.
C'était pour vous faire c'était rester jusqu'à la fin.
C'était un petit test.
C'était un petit test, absolument.
Un petit test, hein.
Absolument, voilà. Ouais, parce
que
sinon,
non, mais le problème, c'est que après on met petit à toutes les sauces, quoi. Ouais, c'était un petit moment, c'était un petit test, c'est un petit truc. Bah, pourquoi
Et bah, tu sais quoi
ouais. T'es mon petit cœur.
Hey, pensons plus
t'es
grand.
Mon petit cœur.
Pensons plus grand.
T'es mon petit cœur. T'es mon grand cœur.
Voilà, je préfère.
Ah bah écoute,
ouais, bon, tu sais quoi, on va passer tout de suite au petit win de la semaine.
Tu vas voir. Mais non, alors, tu vois, tout de suite, le petit win, ça fait français, excusez-moi, ça fait étriqué, ça pue du cul.
Mon dieu, ça commence fort, ce podcast.
Exactement, mais non, je suis désolé, moi, les petits trucs, ça commence à. Il y a un bouquin là-dessus sur justement sur le petit et l'utilisation de petit et dire à quel point, quand tu dis petit, en fait, dans ta tête, tu penses petit. Et bah, arrêtons de penser petit. C'est à force de penser petit qu'on fait pas grand chose.
Je le prends
c'était
assez
mon
mal.
Coup de gueule. Voilà.
Julien 2017.
Exactement. Mais ouais, votez pensons Julien. Plus grand. Mais non, mais putain, ouvrons la tête et tout. Les choses sont belles, sont grandes.
Ouvrons la
embrassons-les, chopons-les. Et c'est pas petit, c'est pas étriqué. Voilà.
Faudrait c'est juste un mot, hein, tu sais. Ouais, hein, c'est pas ma pensée.
Mais
c'est
tu sais,
pas...
faudrait vraiment qu'on ait un petit
mot. Non, mais ne t'inquiète pas, en fait, il me fait la même réflexion à chaque fois quand j'écris des news ou des articles. Il est jamais content, il aime pas ce qu'il dit.
Ah, j'ai pas le jingle avec
lui. Je veux lui, pas d'accord.
Mais si,
c'est un joli mot, petit.
Non, mais petit, j'ai aucun problème à partir du moment où c'est
petit
en taille. Mais non, mais la taille, petit, oui, bonne utilisation du mot. Napoléon était petit, bah pas de problème. On peut être petit.
Donc c'est un mot qu'on peut utiliser.
Mais des petits trucs.
Et qui peut aussi signifier quelque chose de mignon aussi également.
Small World, alors. Du coup,
mais je déteste, c'est mon attraction la plus pourrie.
Mais
c'est tout petit naze.
Bon. C'est tout petit naze.
Ah, c'est petit.
Eh bien,
naze.
Julien, vous êtes petit ce soir.
Ah, fort bien.
Alors, le win de la semaine, Julien.
J'avais promis. Hein,
il est plutôt gros,
podcast.
Non.
Moi, après, je surjoue et puis c'est rigolo.
Et il est géant même.
Non, tu surjoues pas.
Il est intéressant.
Naturellement.
Ni plus ni moins. C'est effectivement le win de la semaine. C'est ah, il se rabiboche. Ubisoft d'un côté du ring. Patrice Desilets, que vous avez peut-être connu. C'était l'un des créateurs de Prince of Persia, Les Sables du Temps. C'est en fait le vrai père de Assassin's Creed, le premier, puis le 2, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui pèse dans le game, qui avait quitté Ubisoft avec perte et fracas, une première fois, avant d'arriver chez THQ, où il avait commencé un projet. 1666 Amsterdam. Et puis vous le savez, THQ a connu de grandes difficultés financières au point d'être acheté par ah bah tiens, Ubisoft, retour à l'envoyeur. Et alors là, ils se sont pas du tout entendus de nouveau.
Enfin, c'est Ubisoft, c'est THQ Montréal qui a été racheté par Ubisoft, pas THQ dans son ensemble.
Oui, absolument.
En fait, Ubisoft a racheté certaines propriétés intellectuelles de THQ.
Oui, mais en
dont,
ce qui compte,
comment ça s'appelle
South Park,
dont en 1666.
Et le studio les... THQ Montréal.
Exactement. Et donc, leur voilà chez Ubisoft. Vous avez la news sur Gameblog où on avait évoqué véritablement le clash final qui fait que Manu Militari, en fait, il avait été reconduit à la sortie du bâtiment, même pas eu le temps ou l'occasion de récupérer ses clés de chez lui, hein, de son appart. Hein. On lui a même pas donné ce... Je trouve un luxe.
Ah, vous oubliez votre
un minimum de respect. Bref, ça a été réglé en 2-2. Il l'avait expliqué et il avait fait un procès à Ubisoft à plus d'un titre, dont celui de vouloir récupérer les droits de son jeu, 1666. Il y avait un prototype qui avait été fait. Il y avait des arguties légales d'un côté de l'autre. Mais... là, cette semaine, eh bien, ils se sont entendus, visiblement. Ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre et Ubisoft laisse les droits de commercialisation et d'utilisation de la licence à Patrice Desilets. Et là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une fois de plus, je pense qu'on peut dire...
Ouais, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la machine à cash, non ?
Non, je pense qu'on peut dire merci à Vincent Bolloré. Merci Vincent Bolloré qui fait énormément de bien en fait autour d'Ubisoft en ce moment. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que je pense que toute la pression que Vincent Bolloré est en train de mettre sur Ubisoft fait que Ubisoft ne peut pas faire 12 guerres en frontal et se doit d'avoir une image médiatique, etc., au plus haut pour pouvoir être soutenu, même de loin, en tout cas, d'avoir la bienveillance des joueurs, de la presse, etc. Vous le savez, on était blacklisté par Ubisoft et... depuis le début de l'année, soudainement, hein, sans vraiment de raison particulière, on n'est plus blacklisté par Ubisoft. Une fois de plus, merci Vincent Bolloré. Donc voilà,
va l'être de nouveau très bientôt.
Je pense que ça réglera pas.
De ce podcast.
Non, mais je pense que ça réglera pas le fait qu'un jour, le jour, il va vouloir accélérer, il bouffera Ubisoft tout cru. Mais ça, je suis ni pour ni contre ni rien. Voilà, hein, je parle.
C'est pas notre guerre. De toute façon.
C'est pas notre guerre. Mais je pense en tout cas que le fait que soudainement ils s'entendent ne doit pas être totalement étranger avec le fait qu'Ubisoft doit vouloir se être un peu serein,
se délester.
Voilà, bah, se délester
c'est
de toutes
les guerres. C'est un mal pour un bien, on va dire.
Voilà. Mm-hmm. Bah, je suis très content pour Patrice Desilets, qui le mérite et qui récupère le projet, même si actuellement il travaille sur un autre jeu, qui est son premier jeu avec son nouveau studio. Hein,
avec Panache.
Qui s'appelle Panache, jeu numérique, en français dans le texte, qui donc s'appelle Ancestors, The Humankind Odyssey. On avait fait une longue interview lors de l'E3 dernier, plus de 30 minutes avec Patrice, devant le Convention Center, très intéressant, un peu sur toute sa carrière. Et Panache et là où il voulait en venir, donc intéressant.
Par contre, une petite question que je me pose à des suites de cette histoire, c'est que une semaine avant l'annonce de l'entente entre les deux parties, Ubisoft avait de nouveau déposé la marque 1666 auprès du bureau américain en charge de ça. Donc pourquoi redéposer la marque juste avant finalement de la laisser à Desilets? C'était pour que ça soit tout fait en bonne et due forme,
hein. Probablement, ouais, parce que vraiment c'est marqué dans le communiqué, hein, c'est les droits éditoriaux, enfin le côté créatif et commerciaux, Patrice Desilets.
Ouais, donc en fait je pense qu'il faut pas s'attendre à un retour de 1666 de si tôt, mais une fois que son projet actuel sera terminé et commercialisé, peut-être qu'il y reviendra, parce que je pense qu'il tenait quand même vachement à l'idée et au concept. Donc
mais en tout cas, enfin, qu'on se comprenne bien, hein, c'est un bon move global là d'Ubisoft et de Patrice Desilets, enfin lui, et du coup qui a retiré évidemment son procès, enfin plus de procès, etc.
Plus de procès,
c'est cool, ça apaise et on en est ravis pour tout le monde et pour les joueurs.
Bon, on va passer au fail de la semaine maintenant, Carole. C'est toi qui vas nous en parler.
Et Pona arrive.
Le fail.
Ouais.
Le fail. La maladresse.
La précipitation.
Peut-être la précipitation de Valérie Pécresse, effectivement.
La facilité, le raccourci.
Voilà,
tout ça.
Le raccourci, je dirais que c'est plutôt un raccourci, effectivement, qui a assimilé.
Donc Valérie Pécresse, notre présidente de région Île-de-France, élue fraîchement cette année, ex-ministre.
Une très charmante personne. Très belle femme.
Qui plaît beaucoup, au sein de la rédaction.
MILF intéressante.
C'est horrible ce que tu dis. Qui a assimilé un peu les jeux vidéo, qui a dit que c'était une addiction en fait.
Une sorte d'addiction.
Et qui a comparé ça à la drogue, qu'est-ce qu'il a ?
À l'alcool.
C'est la MILF quoi.
Bah,
ah,
oui,
c'est horrible.
Mais de toute façon, dès que j'ouvre la bouche, il est là pour gâcher, la surprise. Tout ce qui est beau, il le gâche. Ouais. C'est petit, Julien.
Je peux demander de la souiller.
En tout cas, le tabac, la drogue, l'alcool et les jeux vidéo sont pour Valérie Pécresse, une des raisons qui font qu'à l'école, il y a un décrochage, le décrochage scolaire, absolument. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un pataquès, notamment sur Twitter. D'ailleurs, je me suis moi-même adressée à Madame Pécresse.
Et Julien aussi, passage, nous a fait un
j'ai quelque chose à vous dire.
Mais soyons clairs, sereinement, calmement, le propos, évidemment, est de souligner une erreur, on va dire sémantique, puisque l'Académie nationale de médecine française a clairement indiqué que le jeu vidéo n'était pas, en l'état actuel des choses, des connaissances assimilées à une addiction. Donc non, ce n'est pas une addiction, c'est ce correctif qu'on souhaitait apporter. Cela dit, évidemment, ce n'est pas une question de lynchage, ce n'est pas une question de péter des câbles, etc., comme malheureusement trop souvent ça peut être le cas. C'est pas être chevalier blanc non plus, c'est juste dire attention, les mots ont un sens, ont un poids. Addiction, c'est un mot très stigmatisant, très dur. On meurt de la drogue, on meurt de l'alcoolisme. Le jeu vidéo reste une passion.
C'est pour ça qu'elle a fait des précisions d'ailleurs.
Elle a fait des précisions sur jeuxvideo.com et effectivement, je pense que c'est une maladresse, une précipitation de sa part. Elle a fait un peu l'amalgame. Je pense qu'elle voulait plutôt faire référence, on en parlait ce matin à la rédaction, au jeu. En général, comme on peut devenir addict par exemple aux jeux dans les casinos, comme on peut dépenser trop d'argent et y devenir addict. Et encore une fois, le mot addiction, je trouve qu'il est un peu fort.
C'est pratique
Julien
excessive.
A raison, c'est une pratique excessive.
Et il y en a, il y a des gens qui passent beaucoup trop de temps dans les jeux vidéo.
C'est évident.
C'est pas bien.
Mais comme elle le souligne dans son interview sur jeuxvideo.com, c'est vrai qu'elle a toujours plus ou moins soutenu le jeu vidéo. Ses enfants y jouent, elle a rien contre. Et moi, je suis d'accord avec elle. Si un jour je suis maman, moi, j'ai pas envie d'interdire à mes enfants de jouer aux jeux vidéo, mais j'ai pas non plus envie que ce soit au détriment de la lecture, du sport, d'activités à l'extérieur, etc. Donc c'est vrai qu'il faut que ce soit sous contrôle. Mais comme je le disais sur Twitter, je pense que c'est pas une question de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Je pense que c'est sur l'éducation des parents qu'on doit travailler, et pas pas taper sur le jeu vidéo. Si on éduque les parents, si on leur apprend à encadrer leurs enfants dans la pratique du jeu vidéo, je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Et l'Académie nationale de médecine était très claire là-dessus, totalement en phase avec ce que dit Carole, et soulignait le rôle des parents en leur disant qu'ils devaient aussi et avant tout être un modèle pour leurs enfants, et donc eux-mêmes faire attention au temps qu'ils passaient sur leurs écrans, parce qu'effectivement dire arrête de jouer à tes écrans machin, alors que toi t'es sur Twitter, sur ton Facebook, sur ta tablette et tout H24, forcément les enfants ils font, enfin je veux dire bah tu le fais aussi, alors bah, moi aussi je vais le faire,
donc
évidemment à nous tous de faire attention à ne pas tomber dans des usages excessifs.
Et d'ailleurs devant Epona on fait attention, on joue pas trop à la console, on utilise pas trop nos smartphones, et du coup elle ne s'emporte que mieux,
et on le voit pas très bien à l'écran pour les premiums, mais c'est vrai, elle est totalement sur mes pieds.
Mais tu vois, c'est une dérive. C'est une dérive aussi qui est l'utilisation faite du mot addiction liée aux jeux vidéo fait par Valérie Pécresse aussi, c'est le reflet d'un changement d'époque. Parce que quand j'étais petit, le jeu vidéo existait déjà, mais s'il y avait eu un discours équivalent, je pense qu'il y aurait eu l'alcool, il y aurait eu les drogues, mais il y aurait eu la télévision qui aurait été évoquée, pas le jeu vidéo. Parce que je me souviens, quand j'étais petit, souvent les gens ils disaient « Ah ouais, vous avez vu ces enfants qui passent leur journée devant la télévision, etc. » À l'époque, c'était ça,
et
le danger.
Les jeux de rôle.
Voilà, les jeux de rôle, les meurtres en forêt, tu sais, le mec qui se prenait trop au jeu et qui se tuait et tout. C'est juste que maintenant, le jeu vidéo est tellement omniprésent et tellement...
C'est qu'il faut observer ce qui se passe derrière. Avant, si effectivement il peut y avoir des gens qui passent beaucoup de temps sur des jeux en ligne ou sur des jeux vidéo de manière générale ou sur les écrans, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un environnement qui est favorable à ça, et c'est plutôt ça qu'il faut analyser.
Bah,
je pense
tout à fait, je pense
pour moi la base de tout c'est les parents.
Ouais.
C'est aussi les parents, c'est d'être encadré surtout. Après c'est bien aussi d'avoir, moi je joue énormément aux jeux vidéo, s'évader, avoir envie de s'évader, de sortir de la réalité, c'est bien. Et avec la réalité virtuelle en plus ça va être encore pire, alors bientôt on va nous sortir une addiction à la réalité virtuelle, et ça,
il y a des gens qui s'endorment
forcément
avec le casque sur la tête,
et ça je pense que ce sera plus complexe encore que le jeu vidéo actuel.
Oui, là,
hein, parce que quand t'es dedans, t'es vraiment
dedans. Ce sera pas via un écran, mais je pense qu'elle voulait aussi, je pense que Valérie Pécresse voulait aussi mettre le doigt sur le côté, enfin sur Valoche. Je pense que la petite Valoche voulait mettre le doigt aussi sur le phénomène du no life qui existe vraiment, et d'ailleurs elle en parle aussi dans son interview, et c'est vrai que c'est ça peut-être qui lui a fait un peu peur et qui fait qu'elle a englobé le jeu vidéo, l'addiction, etc. C'est vrai que, encore une fois, c'est pour moi ça passe par les parents, par l'éducation. Si t'encadres tes enfants, si tu fais attention à ce que ça soit pas du non-stop et que tu veilles à ce qu'ils aient une vie sociale, qu'ils fassent du sport, qu'ils bouquinent à côté, je pense que c'est là que ça démarre, et ça ce serait payant. Mais après, attaquer le jeu vidéo en disant c'est une addiction, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux.
Je l'ai pas attaqué.
Je pense pas que c'était une attaque. Je pense que c'était juste un raccourci malheureux, vraiment. Il y a pas, au fond, de choses incroyablement ouf dans ce qu'elle dit. Tu vois, c'est pas genre Laure Manaudou qui va dire ouais, le jeu vidéo, ça va inciter les gens à tuer d'autres gens.
Et surtout, effectivement, elle a repris la parole très rapidement pour expliciter ses propos. Donc bon.
Et
dont acte.
Et donc voilà, c'est un fail.
Juste pour terminer, ce qu'on a évoqué vite fait, la réalité virtuelle, en disant que ça serait le nouveau truc à surveiller, il faut rappeler aussi que dans les consignes d'utilisation de la réalité virtuelle, les différentes marques mettent en principe un âge minimum de 12-13 ans en fonction des marques. Donc c'est quand même pas fait pour les enfants à la base.
Oui, mais tout comme GTA est pas fait pour les moins de 18 ans, tout comme Call of Duty est pas fait pour les moins de 18 ans, et puis en fait,
c'est
les
pas faux.
Des,
tout comme les transactions en ligne.
Mais il y a des trucs liés à la santé, tu sais, aux yeux, etc. Donc c'est pas vraiment le même type de restrictions.
Tout à fait, mais encore une fois,
mais
si les parents,
oui, bien sûr.
De toute façon, voilà, si les parents surveillent pas, le gamin il prendra le casque et puis il y passera des heures, et puis les parents diront rien. Oui, mon gamin.
Au moins, il nous fait pas chier pendant ce temps-là. Hein.
Exactement, mais c'est un peu ça. C'est comme quand tu fous ton gamin devant la télé parce que tu vas faire ton ménage, ou tu vas téléphoner à la copine, ou tu vas fumer ta clope. Pour moi, voilà, c'est vraiment un problème d'éducation, et c'est pas autre chose.
Carole 2017.
Absolument.
Votez pour elle.
Absolument.
Bon, écoutez, après ce Winners Fail, on va pouvoir passer au premier thème. Et justement, ce premier thème, c'est un petit peu un fail aussi. Un fail parce que Nintendo nous a fait failer.
C'est quoi la musique?
C'est Yo-Kai Watch. En fait, ils nous ont Yo-Kai Dancé sur la gueule un petit peu,
ouais,
Nintendo.
Ce que
parce que
dit
là,
comme
vous avez préparé quand même un podcast spécial 2016, l'année Nintendo. Après, on vous a fait tout ce qu'on attend sur la NX si elle sort fin 2016. Il y a eu
on
aussi.
C'était chaud, hein. Vous pouvez pas dire qu'on n'était pas à fond avec Nintendo.
On était à
hein.
fond pour que Nintendo fasse quelque chose en 2016. Et là, rapport financier qui est tombé il y a quelques jours. Et pas de NX en 2016. Et Zelda sera le seul jeu jouable à l'E3.
Tu sais ce que j'aurais mis comme
et il sortira bruit. Aussi en 2017. Qu'est-ce que c'est que bah, tout
en
ça
en même temps sur les deux consoles. Donc
moi j'aurais mis un bruit de vent. C'est le.
Ouais, mais j'avais envie de mettre Yo-Kai Dance.
Préparer ça ou un petit truc un peu.
Moi j'aime bien la Yo-Kai Dance, excusez-moi.
Mais ce qui est quand même assez ouf, c'est que réécouter notre podcast sur les nouvelles consoles dont parlent les rumeurs, et on faisait le meilleur et le pire cas de figure pour l'E3. Nintendo, là, a fait encore pire que
pire
notre
scénario.
Pire scénario qu'on prévoyait. C'est tout simplement hallucinant.
Là, c'est clair que 2016 pour Nintendo, ça s'annonce comme une année blanche. Quoi. Ça veut dire
c'est
que
compliqué.
Pour l'instant, moi, honnêtement, hein, si tu as une Wii U aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une goutte qui est en train de perler parce que, ok, il y a eu Pokémon Tournament, ok, il y a eu Star Fox Zero. C'est quand même, je viens de citer quand même deux jeux qui sont pas non plus.
C'est pas des jeux qui marqueront les esprits. Hein,
voilà,
hein,
c'est pas du cultissime de la mort. Et puis derrière, on te dit quand même qu'en gros, il va avoir un jeu, mais attendez, un jeu jouable
L'E3,
Nintendo. Hein. Alors après, on peut dire il y aura peut-être des jeux éditeurs tiers, mais enfin, vu comme il n'y en a pas eu depuis des années, je me dis que soudainement, il va pas avoir l'avalanche. Un jeu jouable, mais c'est terrifiant. Et ce sera le Zelda Wii U, alors qu'on vient de t'annoncer, Nintendo a annoncé, qu'il sortira, maintenant c'est officiel, aussi sur NX. Donc autant te dire qu'à l'E3, on va avoir un jeu dont plus personne n'a envie de vraiment le regarder, parce qu'on. Objectivement, quand t'es passionné de jeux vidéo, t'as envie de voir quand même la meilleure version, et donc tu te dis, bah, on a envie maintenant de le voir sur NX. Ça ne voudra pas dire du tout qu'il sera pas bien sur Wii U, tout comme Twilight Princess avait été cool aussi sur GameCube, même si je trouve que personnellement, il était plus intéressant sur Wii,
sur Wii,
parce qu'avec la Wiimote et tout, même si certains diront que c'était peut-être moins précis, au moins tu te sentais, tu faisais les mouvements et tout.
Moi,
oui, je sais, c'était qu'inversé. Mais enfin bon, bref, ça fait quand même vachement flipper, d'autant que de l'autre côté, on sait qu'il va quand même avoir beaucoup d'annonces software, en tout cas, et ça veut dire que donc la NX sortira, maintenant c'est officiel, sortie mondiale mars 2017, et donc là, je prends mon agenda, et je regarde, et je me dis, nous sommes donc en avril 2016. Elle sort en mars 2017. En gros, on a un an à attendre. 11 mois. Pendant ces 11 mois, a priori, il va avoir à peu près rien de majeur sur console Nintendo. Il y aura des jeux, hein.
De salon.
Mais majeur. Majeur.
De salon, oui, comme
de
le
salon,
précisément.
Ouais, enfin, excusez-moi.
Un Pokémon qui arrive sur 3DS, rien
oui,
pour
oui,
ça.
Oui,
là,
c'est vrai. Yo-Kai
Watch.
Mais sur console de salon.
Le jeu qu'on attend, c'est Zelda.
Rien.
Quoi, je veux dire.
Le désert
et que ça,
pendant
en fait,
11
de toute
mois.
Façon.
C'est honnêtement du jamais vu. Parce que oui, la Xbox 360, en fin de vie, ça n'a pas été la folie du côté de Microsoft. Bah oui, mais enfin, il y avait les éditeurs tiers qui eux étaient là. Hein. Il y avait tous les jeux éditeurs tiers, ils sortaient. Et en fin de vie de la console, mine de, il y en a eu pas mal. Alors qu'on sait qu'en termes d'éditeurs tiers sur Wii U, il n'y aura que chi. Donc c'est terrifiant quand même le message. Alors attention, comprenez-nous bien, ça ne veut pas dire que Nintendo est mort, ça ne veut pas dire qu'on doute de la viabilité de Nintendo, là, machin. Ils peuvent se le permettre, et quelque part, c'est peut-être même un move intéressant pour arriver, et en mars 2017,
et ben ça se trouve,
en mettre
ça
plein
se trouve,
la gueule avec plein de trucs.
Ça se trouve, notre line-up idéal, il sera prêt
voilà,
pour mars 2017.
La console sera d'enfer,
non, mais ça,
Zelda
y a pas de problème.
Va être incroyable et magique.
Ça n'enlève, absolument pas cela.
Ça fait une année morte.
Mais ça veut juste dire que si t'as qu'une Wii U, évidemment qu'on sait depuis un bon bout de temps que c'est une console d'appoint. Bon, déjà pour certains, il a fallu du temps pour la comprendre. Mais maintenant, je crois que c'est quand même bien dans votre tête. Les mêmes personnes qui aujourd'hui, quand tu leur dis oui, mais attendez, on le savait que c'était une console d'appoint. Avant, ils disaient non. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais là, c'est même plus de l'appoint. Elle sert plus à rien. Enfin, si t'as suivi un peu la vie de la Wii U et donc t'as acheté les jeux quand ils sortaient globalement, puis je veux dire, qui va acheter une Wii U maintenant? Enfin, attendez, c'est repris par les médias du monde entier puisque c'est officiel. Donc, en gros, la théorie que j'évoquais la semaine dernière pour dire que Sony, ils vont être un peu embêtés avec leur PS4.5 parce que s'ils la sortent pas là tout de suite après l'E3, bah, l'annoncer à l'E3, c'est un peu chaud. Moi, j'ai envie de dire, l'annonce de Nintendo, je pense, met beaucoup de poids au fait qu'ils l'annonceront pas à l'E3, la PS4.5. Parce que alors là, il y a même plus de stress. Hein. Mmh. C'est oulala, si on n'est pas prêt, attendons hein, Gamescom ou Paris Games Week, mon avis plutôt Gamescom. On est plus pressé, mais ouais, pour Nintendo, t'as une Wii U, bah il est urgent de prendre une autre console.
Bah alors, on peut être déçu évidemment du fait qu'il n'y ait rien en 2016 à nous montrer, enfin à nous donner. Parce que montrer, si ils ont prévu quand même de montrer la NX dans le courant de l'année 2016, on ne sait pas à quel moment. Hein, ils expliquent pas exactement quand.
Avant la fin de l'année. Ouais.
Avant la fin de l'année, voilà simplement.
Toujours
mais
flou, hein.
Comme tu le disais juste avant, on peut aussi être pas forcément affecté par le fait que elles sortent en 2017. Finalement, comme on le disait à l'instant, c'est peut-être reculé pour mieux sauter et,
D'autant que
et mieux préparer.
Si elle était sortie, on va dire, genre fin novembre, un truc comme ça, c'est pas la fin du monde, hein. Ça veut dire que c'est 3 ou 4 mois de plus. Hein. Mais c'est juste que à Noël, tu sais que tu vas laisser commercialement le champ libre à Sony et Microsoft qui vont vendre eux des millions, voire des dizaines de millions de machines parce qu'ils vont arriver avec des line-up de malades entre les exclus et les tiers. Qu'à l'E3, le bruit médiatique, il va être pris par la réalité virtuelle, peut-être par des annonces de nouveaux hardware, des gros jeux exclus, des gros jeux éditeurs tiers. Et Nintendo, là, c'est... Nous n'existons pas. Et donc, tu vas te retrouver quand la NX va sortir, aussi bien soit-elle, et je le souhaite vraiment. Moi, je trouve que l'industrie a besoin d'un Nintendo très fort, et donc, moi, je l'espère à fond. Et en plus, j'en suis relativement persuadé. Je pense qu'ils sont pas cons et qu'ils vont faire un truc bien. Ils vont se retrouver avec Sony à 60-70 millions d'exemplaires peut-être vendus de PS4, et Microsoft peut-être à 40 ou un truc. Waouh! Hey, quand t'es un tiers, t'imagines le risque? T'imagines, tu pars sur une base installée de zéro console, tu sais que Nintendo va te phagocyter bien les ventes, alors qu'à côté, t'as un parc installé d'en gros 150 millions de machines.
Oui, et en plus, Microsoft et Sony l'ont montré à travers moult d'exemples, qui sont prêts à s'associer avec les éditeurs tiers, à leur faire des facilités, à faire des opérations spéciales, à les mettre en avant. Nintendo, c'est quand même un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Et même si je sais qu'il y a toujours une base de fans hardcore attachés genre au niveau du sang avec Nintendo, ils vont, je pense, en reperdre un petit peu parce que à contre-cœur, hein, mais certaines personnes vont vouloir jouer à de nouvelles choses à la fin d'année et ils vont être obligés soit de la garder et de plus utiliser et acheter une nouvelle machine, soit de revendre leur Wii U. Ils vont forcément perdre un petit peu, au moins un petit peu de joueurs qui vont avoir besoin de se mettre des choses sous la dent et qui vont passer à la concurrence.
Et qui vont peut-être être séduits par ce qu'ils voient.
Et qui ne reviendront jamais sur Nintendo.
Qui ont une fortune personnelle incroyable et qui, quand la NX va sortir à 300, 400, 500 balles, ils vont peut-être se dire « Oui, mais attends, je viens d'acheter une PS4 ou une Xbox One à Noël. »
Peut-être de nouveaux modèles
bon,
en plus.
Ouais, voilà, enfin, c'est un pari commercial, industriel et machin, super risqué. Probablement éditorial bon, c'est-à-dire arriver, peut-être créer la surprise, il y a sûrement un truc différenciant technologiquement et que ça, c'est probablement super intéressant, mais commercialement parlant, si les gens ils ont fait plein de machines et plein de jeux et qu'en plus ils sont contents, et on le voit vraiment sur les forums et Twitter, je trouve que c'est vraiment là depuis quelques temps, et là avec ces annonces d'hier pour nous qui enregistrons le jeudi, c'est la première fois où vraiment je sens des gens qui sont des amoureux de Nintendo commencer à être inquiets, commencer à dire ouais mais là quand même ça fait beaucoup, ouais là vraiment quand même la Wii U en fait, maintenant j'ose le dire, j'ai vraiment été déçu, je me suis fait un peu carotte quand même, et ça quand ça commence à faire ce chemin dans la tête, c'est pas irrémédiable,
maladie,
mais
hein,
ça va prendre du temps à le gommer.
Ça touche quelques fans, quelques irréductibles, et puis ça commence à se propager.
Ça se répand.
Et ça se répand, effectivement, et c'est un petit peu dommage.
Mais on va tous se transformer en zombies. Par extension, le fait qu'on ait quasiment rien de Nintendo durant l'E3, est-ce que ce n'est pas aussi un impact très important sur ce salon, une fois de plus, hein, qui quand même s'est fait désosser par plusieurs éditeurs majeurs.
Oui, ça, je pense qu'on part pas pour l'E3 de tous les temps. Hein.
C'est pas une bonne nouvelle pour le SA, c'est sûr et certain. Parce que c'est vrai que Nintendo, c'est un constructeur historique malgré tout, et toujours un stand, même si pas forcément grand chose à y montrer, mais toujours un stand super grand, une présence importante à l'E3. Et là, et donc là, faut pas se leurrer, hein. Comme ils ont que Zelda, on repart vers un Nintendo Direct.
Ou alors ils vont recréer Hyrule sur le salon.
Le stand peut être chouette.
Mais je pense que le stand peut être
chouette,
complètement incroyable.
Avec le château d'Hyrule, avec
une Irona. Mais honnêtement, quand on va avoir le gamepad dans les mains,
un jeu.
On pourra pas faire autrement que se dire. À chaque fois qu'on attend, il y a
quoi.
Des représentants. Et la sur NX, ce sera comment? Il y aura quoi comme option en plus? Et graphiquement, machin. Enfin, genre, la tension, ça y est.
Elle est sur autre chose.
Mais ça se trouve, ils vont la montrer avant l'E3.
La NX?
Oui, ça se trouve. Parce qu'ils n'ont pas précisé de date, donc on sait jamais.
On est à 2 mois de l'E3.
Alors, si tu la montres avant l'E3, mais qu'à l'E3, t'as que Zelda Wii U, c'est pas cohérent.
Bien sûr, je dis pas le contraire. Je me dis juste, c'est possible.
Ah bah, tout est possible. Mais alors là, s'ils font ça, définitivement,
ils peuvent même la sortir demain.
Non, ce serait complètement con.
Est-ce qu'ils peuvent revenir sur. Tiens, pourquoi pas? Est-ce qu'ils peuvent revenir sur leur décision et ne pas la sortir en mars 2017 pour mieux nous surprendre?
Tu dis pas ça aux investisseurs.
Ouais. Tout est possible.
Oui, c'est vrai que c'était l'enjeu financier.
Genre, tu fais pas du teasing avec des investisseurs, c'est pas avec eux que tu rigoles.
Surtout qu'ils ont annoncé quand même 61% de baisse des bénéfices.
Ouais.
2016, c'est pas la bonne année Nintendo.
C'est pas leur année.
Ouais. Et vous vous rendez compte d'année sur année 61% de chute des bénéfices, et quand on va avoir les résultats de cette année, les résultats vont certainement encore diminuer par rapport à ça. Alors oui, je sais, Nintendo ne va pas mourir. Ils ont un trésor de guerre. De
baisse
ouf,
des bénéfices, ça veut dire qu'ils font toujours des bénéfices quand même.
Oui, ils font toujours des bénéfices grâce aux Amiibo. En plus, maintenant, ils se sont un peu plus ouverts à la vente ou près de leur licence. C'est pour le cinéma, les parcs d'attractions, tout ça. Donc ça, c'est une source de revenus supplémentaire.
Pas inquiet financièrement pour Nintendo.
Non, c'est sûr.
Du tout.
Non, mais ce qu'il faut se dire que même si les coffres ont encore de l'argent en réserve, il faut quand même attirer les investisseurs, faire plaisir aux actionnaires, etc. Et 61% des bénéfices, enfin de baisse des bénéfices, les investisseurs, ils sont pas chaud patate pour ce genre de nouvelles. Donc c'est pas très réjouissant. Et Nintendo va pas pouvoir se baser éternellement sur son trésor de guerre. Parce qu'ils attendent quand même un certain niveau de revenus, ils veulent battre leur record.
Bien sûr.
Il y a l'application Mitomo qui cartonne, il y a 10 millions d'utilisateurs.
Ça cartonne, mais ça fait pas d'argent.
Il va y avoir Fire Emblem, je sais plus quelle est l'autre licence. Animal Crossing sur application,
Pokémon,
c'est génial.
Pokémon Go.
Il y a Pokémon Go aussi. C'est super.
Mitomo, combien de personnes l'utilisent encore? Combien de personnes ont fait un achat aussi,
j'ai un peu lâché, je l'ai réutilisé il y a 3 jours.
Oui, je sais, pour me dire que c'était dégueulasse le truc qui me rendait joyeux.
Bah franchement, oui, franchement. Non, mais c'est horrible ce que tu racontes.
Bah attends, mais ça rend super joyeux. Tu l'as déjà essayé ou pas?
J'ai pas du tout envie.
C'est des questions idiotes qui tournent en boucle.
La question à laquelle tout le monde doit répondre.
Non, mais ça, les gens, ils sont au courant.
Bon, alors la question, c'était qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui peut te rendre heureux quand t'es de mauvaise humeur? Et moi, j'ai répondu: appuyer sur tous les boutons d'un ascenseur et lâcher une caisse avant en sortant. Voilà, ça
donc
peut me rendre super heureux.
C'est vraiment dégueulasse.
Bah oui, excusez-moi.
Voilà.
Donc voilà, et je le fais, hein, je le fais le plus souvent possible pour être joyeux.
Donc c'est ce passage sur Mitomo m'a laissé pantoise. Voilà.
Moi j'y joue plus. Enfin, je l'utilise plus.
Tu n'y as pas trop joué. Bah,
si, les trois premiers jours. Quoi,
ouais, voilà.
Pour voir, mais
t'as pas trop accroché.
Bah, non.
Au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond.
Bah, c'est dommage, il y a les costumes Splatoon en ce moment, c'est super.
C'est mignon là. C'est limité.
Je trouve ça trop limité.
C'est limité.
Bon, en tout cas, Nintendo, ce sera donc pas pour 2016.
2017, Nintendo.
Malheureusement, on a un podcast à réenregistrer.
Une année 2017 incroyable.
Non, mais ça peut être. Si Zelda.
On refera un podcast de toute façon. 2017, l'année Nintendo.
Techniquement, en mars, c'est sûr qu'il y aura moins d'attention sur les autres, donc ils peuvent avoir toute la place, etc.
Sauf si The Last of Us 2 arrive en mars 2017.
En termes de communication, le fait de ne pas prendre de risque à l'E3, parce que. Pour Sony, c'est loin d'être garanti, et pour Microsoft non plus. Mais imaginons que les deux sortent une nouvelle machine super puissante avec des expériences de ouf, la réalité virtuelle super convaincante, etc. Pour pas se faire voler la vedette, c'est pas dingo de pas vouloir mettre la NX à ce moment-là. Mais c'est un pari risqué malgré tout.
Mais non, mais ça veut dire que tu te sens faible, surtout.
T'as pas confiance en ton produit.
Que je lisais dans les forums et tout, vous êtes certains à dire oui, mais c'est bien parce que comme ça, ils auront plus de temps et bidule.
Attendez, pour le line-up, hein, ça se trouve qu'il prépare la
Je suis d'accord, mais il disait, enfin, quand tu te sens fort et quand tu lances une nouvelle console, j'ose espérer que tu te sens fort. Enfin, quand t'as travaillé, t'as investi des centaines de millions de dollars,
etc.
Quand tu te sens fort, la meilleure moyen de toucher les gens, c'est d'aller en frontal. C'est pas d'attendre que le combat soit fini, puis ah, au fait, j'ai un petit truc à vous dire, machin. Non, non.
Un grand truc.
Mais justement, c'est pas fait exprès. Quand tu te sens fort, bam, t'y vas et tu fais quoi? Vous sortez des mises à jour de vos consoles? Ouais, mais attendez, c'est nous qui allons tout péter. Regardez, bam. Donc là, c'est un aveu de on n'est pas prêt ou on doute.
Mais ou c'est une tactique.
Moi je pense que c'est surtout on n'est pas prêt.
C'est plutôt on n'est pas prêt, ouais.
Ça peut être une tactique, ouais. Hein, tu sais. Il y a aussi des boxeurs qui attendaient, qui encaissaient, puis à la fin, pas. Hop, ils en mettaient une bonne et c'était fini. Rocky Balboa notamment.
Oui, mais
Rocky,
très bien, mais alors je reprends le truc. Il était sur le même ring.
C'était pas ma guerre.
Ouais. Il se barre au même moment. Mm. Il attend pas que le mec il soit descendu pour le taper hors de l'arène.
Ah non, ça c'est au cas où le faire. T'as avec la chaise et bam.
Tu montes sur l'arène au moment où le combat il est donné. Après, ta tactique, comment tu combats, ça a pas de problème.
Non, mais
tu montes sur le ring. Et le ring, c'est le 3.
Ils sont simplement pas
prêts. Un petit saut de la troisième corde, le manager qui arrive pour tenir l'autre pendant que tu l'as situé, ça des coups, c'est possible.
Ou alors peut-être que Nintendo va faire une conférence à la Paris Games Week et que la console, la NX sera jouable sur son stand à la Paris Games Week.
Ah, on pourrait faire plein de scénarii différents
Zelda,
encore une fois, mais on va pas le faire.
Jouable en réalité virtuelle avec le nouveau casque de Nintendo.
Non, avec un F-Zero NX qui défoncerait tout. Et là,
par exemple,
en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que quand on est fan Nintendo et qu'on a qu'une Wii U, l'année 2016 risque d'être longue, très longue.
Et dure. Bon, et bah écoutez, c'était tellement joyeux que ça me donne envie de passer au thème numéro 2 immédiatement, qui lui va être beaucoup plus sympa, puisqu'on va parler d'une bêta fermée qui s'est présentée il y a quelques jours sur PS4, PC, Xbox One. C'est Mirror's Edge Catalyst. Ça faisait 8 ans qu'on attendait le retour de Faith, cette pro du parcours, vous savez, cette discipline que les Yamakasi ont un peu popularisée en France, qui consiste à courir, rebondir, atterrir un peu partout, si possible dans des endroits vachement dangereux et à des hauteurs complètement folles. Et bah voilà, on a pu mettre la main dessus sur cette version bêta fermée. Vous aussi d'ailleurs, hein, chez vous, vous avez pu pour certains l'essayer. Alors moi, je vais pas vous mentir, c'est exactement ce à quoi j'avais joué chez DICE, qui nous a été proposé donc dans une version PS4 cette fois, parce que quand je suis allé à Stockholm, c'était sur PC qu'on avait pu jouer à ce Mirror's Edge Catalyst.
Différence technique ou pas?
Pas trop, franchement. Alors,
pas trop veut dire un peu.
Oui, enfin tu vois, c'est peut-être sur sur la résolution et sur le framerate qui chute, en tout cas dans cette bêta beaucoup, mais pas trop dans le jeu, mais plus dans les cinématiques en fait.
Bon, d'accord.
Mais après pour le reste,
c'est pas le jeu le plus demandeur technologiquement quand même, c'est les textures
DICE,
sont simples.
DICE sont ils savent optimiser de toute façon leurs moteurs qui sont à chaque fois très efficaces. Donc voilà, je me suis retrouvé à faire exactement la même chose qu'à Stockholm, c'est-à-dire découvrir la ville ou au moins un quartier de la ville de glace dans la peau de Faith. Réapprendre un petit peu à sauter, à bien me réceptionner, à passer par-dessus les obstacles, à courir contre les murs pour ensuite asséner un coup à un garde qui était sur la route. C'est toujours aussi plaisant que dans le premier, c'est un peu plus un peu plus permissif que dans le premier. Il y avait un truc qui me plaisait pas trop dans Mirror's Edge quand il est sorti il y a 8 ans, c'était le fait que par exemple vous sautiez, il y a un tuyau auquel s'accrocher si vous êtes, allez, 15 degrés à l'ouest, 15 degrés à l'est, elle s'accroche pas, même pas ses mains devant. Ça a été corrigé. Et puis, on nous promet évidemment, comme c'est devenu un monde ouvert, un gros monde ouvert qui va s'ouvrir.
S'y perd pas du coup ?
Non, parce qu'en fait.
En vue subjective.
Non, parce que ça a été un peu casualisé, j'ai envie de dire, grâce à une option que vous pouvez désactiver, hein, qui permet de voir les chemins à chaque fois précis vers les.
Ouais, ça, il faut les désactiver, ça, parce que c'est quand même.
Ça dépend, moi je me perds facilement.
Ça peut gâcher un peu l'expérience. Ouais, surtout si c'est un monde ouvert, le but c'est de se laisser aller à la liberté.
Si t'as un
rail devant toi.
Le truc c'est que contrairement à un GTA par exemple, où les différentes rues, où le truc sont très marquées, t'as des quartiers vraiment avec une identité.
Ça devrait être le cas aussi là. Hein.
Dans Mirror's Edge, moi pour ce que j'avais vu à l'E3, ça restait des immeubles globalement très blancs, très gris. Donc après, c'est vrai que la ville elle a pas une identité de ouf. Et donc pour te repasser.
Elle a une belle identité, mais c'est juste que elle est tellement épurée que tu arrives, t'as du mal à savoir entre tel immeuble blanc et tel immeuble blanc lequel est celui que tu voulais.
Mais je suis assez d'accord avec Julien. Si tu désactives ces éléments, t'as plus de liberté. C'est aussi ça, Mirror's Edge.
La liberté, tu peux l'avoir. Alors il y a énormément.
Sans forcément réfléchir où tu vas.
Il y a pas mal de petites épreuves qui sont proposées. Évidemment, il y avait de la quête principale dans laquelle il y avait un peu d'infiltration dans un.
C'est joli quand même, les reflets, c'est très beau sur les bâtiments et tout.
Absolument. Et donc,
c'est très aérien.
Il y a pas mal de petites missions de course, parce que c'est un peu ça en fait. C'est un peu un jeu de course, finalement, Mirror's Edge Catalyst, dans lequel il va falloir trouver les meilleures trajectoires pour pouvoir réussir une course le plus vite possible. Certaines qui peuvent être créées d'ailleurs, puisqu'il y a tout un environnement social qui est créé autour de ce jeu, où, dans lequel vous allez pouvoir vous créer vous-même des petits parcours. Et donc, c'est un peu. Le but, c'est de garder en fait son flow, d'essayer de courir le plus vite possible et sans jamais perdre. Le sens de la vitesse et le sens de l'esquive des objets ou des ennemis
du rythme
peuvent, exactement, et c'est de ce côté là c'est ultra plaisant, je pense que c'est plus fluide que ne l'était le premier, plus instinctif, ça risque d'être un des gros jeux de l'année 2016 s'il tient ses promesses sur la longueur, s'il se répète pas trop dans ses mécaniques.
C'est ça qui me fait peur, que ce soit un peu redondant. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense
que j'y ai pas encore joué,
que après comme je considère qu'il y a une grosse composante de course, les gens qui justement apprécient ce genre d'expérience qui est quand même ultra immersive, si jamais, et je pense que ils y pensent à faire de la réalité virtuelle d'une autre façon,
qu'est-ce qui te fait penser qu'est-ce qui te fait dire qu'ils y pensent?
Je pense que ça s'y prête parfaitement, honnêtement, et puis comme pour Battlefront, ils m'ont expliqué
les gens sauter dans la pièce avec le casque,
ils imaginent quelque chose de différent. différent.
Mais attaché, donc, tu sais. Accroché,
à mon avis, dans pas longtemps, on va entendre parler de la version VR. De...
Parce que quand tu fais une roulade, c'est compliqué quand même.
Au niveau motion sickness, ça peut être
ça peut être la violence totale. Hein.
Mais tu vois, c'est ce jeu, moi, ça, quand je l'avais essayé à l'E3, ça m'avait un peu fait penser à genre Speedrun the Game. Tu sens qu'il y a la notion de skill et moi, c'était la première fois que je le prenais en main, donc je.
Bah, tu t'attends.
J'y allais à tâtons, mais tu sentais que. Il y a, pour ceux qui aiment ce genre de défi, le moyen d'y revenir un certain nombre de fois pour s'améliorer et passer de plus en plus rapidement d'un point A à un point B, bien mieux gérer son timing, etc.
C'est le côté challenge, en fait, ouais.
D'autant qu'il y a,
dessus,
y a un arbre de compétences, hein, que ce soit pour le combat ou pour apprendre un peu plus sur les ennemis qu'on va rencontrer. Il y a un arbre de compétences aussi pour améliorer ses compétences de parcours. Donc, par exemple, la roulade, tu ne l'as pas immédiatement. Mmh. Et quand tu as la roulade, tu as le bon timing au moment où tu atterris d'une hauteur qui est très, très haute, très élevée. Et bah, tu te retrouves à pas perdre justement tout ce flow.
De plus en plus véloce, en fait.
Exactement.
Plus en plus rapide,
et en plus, ils ont ajouté une petite composante sympa, une petite barre de focus, justement, qui, quand tu es à fond, que t'as pas été freiné une seule fois, fait que t'évites les balles. Parce que, grosse nouveauté de cet épisode, il n'y a pas de composante FPS, elle ne se bat qu'avec ses poings et ses pieds. Et
c'était la première. Comment ça s'intègre, ça, du coup? C'est que du combat à main nue.
Alors, elle peut se battre au corps à corps en arrivant sans prendre d'élan, ou elle peut dans sa course, ou en prenant appui sur un mur, ou après avoir pris
son
élan.
Donc, tout a été rendu plus viscéral, c'est-à-dire qu'on doit aller au contact systématiquement, quoi, maintenant.
Pas systématiquement, tu peux esquiver, tu peux éviter tes adversaires,
mais tu peux même les éviter, enfin tous les éviter.
Absolument. Mais il y a une petite épreuve que moi j'ai adorée, et je leur ai dit chez DICE d'ailleurs que ce serait bien de songer à intégrer ça dans le mode d'édition de petits circuits. C'est un mode dans lequel on se retrouve à être obligé de savater des mecs qui sont sur notre chemin pour ne pas perdre justement le flow de la course. Et ce mode là vraiment c'est parfait, quoi. C'est à dire qu'on voit quelqu'un au loin, on commence à courir sur le mur et là on prend son élan et paf, on lui met une grosse patate en atterrissant et on perd pas sa course. Et je trouve que ça, c'est le truc le plus jouissif de tout le jeu pour l'instant.
Là, je regardais les images du jeu que Poufier est en train de diffuser,
oui, qui viennent de la méta,
l'intelligence artificielle, elle a l'air d'être aux fraises. Face était super loin du garde là, et il mettait des coups de matraque dans le vide.
Bah, c'est-à-dire que
il était au moins à 5 mètres d'elle.
J'étais en train d'esquiver aussi pas mal, hein, donc forcément
il était quand même super éloigné là.
Bon,
hein,
après,
ça m'a un peu étonné.
L'IA n'est peut-être pas forcément non plus le truc le plus important du jeu. Mais l'idée, ça sera vraiment, je pense, de pouvoir se balader librement et de faire des trucs.
C'est pas comme dans Hitman, on est d'accord. Ouais.
Et alors, question autre, pour moi, l'une des faiblesses un peu du premier, ça avait été son histoire et surtout sa conclusion très abrupte. Est-ce que t'as vu là des choses qui perdent de l'histoire
Malheureusement, parce que une espèce de prologue sur les origines de Face, avec des petits flashbacks sur son enfance, ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Mais on ne peut pas savoir vraiment pour l'instant si l'histoire sera mieux écrite. En tout cas, c'était leur souhait, hein, de pouvoir étoffer de pouvoir étoffer un peu plus Face, puisque c'est un reboot, une réécriture des origines de Face, et que de ce côté-là, normalement, on devrait être servi. Mais ça sera la version finale qui nous dira si c'est le cas. En tout cas, cette bêta, comme la version à laquelle j'avais pu jouer chez DICE, me satisfait pleinement et me laisse penser qu'on devrait avoir un bon jeu.
C'est marrant parce que quand on voyait le premier Mirror's Edge, on pensait à une sorte d'un FPS, d'un genre nouveau. Et maintenant, quand on voit celui-là, alors je sais pas si ça vous fait la même impression, mais pour moi, on dirait un jeu de plateforme, d'action plateforme, genre 16 bits, mais transformé en 3D, quoi. C'est les mêmes défis, les mêmes questions de rythme. Et tu passes, tu sautes par-dessus un ennemi, ensuite tu attrapes une tyrolienne qui t'amène à l'autre bout. Enfin, ça fait vraiment penser à ça. Ouais.
Mais artistiquement, c'est vraiment réussi.
Oui, bah, comme le premier, ils ont réussi à chaque fois à faire quelque chose de très stylisé, de très joli, de très agréable à regarder. Il n'y a pas de chichi, quoi, il n'y a pas de truc en trop. De ce côté-là, il n'y a aucun problème, comme pour la bande-son d'ailleurs, qui est encore une fois magnifique. On ne devrait pas être déçu. Voilà, et ça arrive. Alors attendez, parce que je sais que quand j'avais fait la preview vidéo, je m'étais gouré.
Ça a été retardé en plus.
C'est le 9 juin. 9 juin en Europe, oui, parce que.
Juste avant le 3.
Ouais, absolument, ouais. Juste avant le 3, ça va être full clos. Donc voilà, ça sort le 9 juin sur PS4, Xbox One et PC, et je l'attends avec une certaine impatience, mais je suis pas le seul, je crois qu'il y a une autre personne qui est en train de hocher la tête là-bas. Il peut pas hocher avec la caméra parce qu'il est derrière un bureau, mais je pense que Poufy, il l'attend énormément. Et on va passer à l'autre avant-première de cette semaine.
Oui, bonjour.
L'autre avant-première de cette semaine, Julien, tu t'attendais à jouer à un Onimusha.
Ah ouais.
Et tu t'es pris un Dark Souls dans la gueule.
Putain. Alors, bah, je savais un petit peu.
Vous
quand même,
êtes mort, bienvenue dans Dark Souls.
Lors du TGS avec Carole l'année dernière. Mais effectivement, je m'attendais pas à une difficulté aussi élevée pour Nioh. Alors Nioh, pour resituer un petit peu, il avait été annoncé initialement en 2004 lors de la conférence PS3. C'était donc il y a 12 ans, hein. Ça veut dire qu'on se moque beaucoup de Versus 13, mais il y a pire.
C'est vrai.
À la base, il devait être en fait adossé à un film. C'était le scénario inachevé d'un film de Akira Kurosawa que son fils Isao Kurosawa devait réaliser au final, et puis bah non, il n'y a pas tout ça. Le jeu a mis du temps, il y a la Team Ninja qui est derrière, mais ça y est, il arrive, il devrait sortir à la fin de l'année 2016, et on a eu donc droit à une alpha, une démo alpha. Donc déjà je trouve que c'est chouette, parce qu'on se rend compte là, rien que dans ce podcast, que finalement c'est un peu le retour des démos. Il n'y en avait plus beaucoup hein, sur la génération passée, et là il y en a plein.
Oh, ça fait un moment maintenant qu'il y a des démos, mais c'est vrai que maintenant il les mettrait de plus en plus tôt sur console.
Ouais, ça serait de plus en plus. Et en plus, c'est pas une petite démo. Je parle de taille, hein. Puisque certains, je voyais des game bloggers qui m'envoyaient des
démo de faible envergure.
Exactement.
C'est
pas une démo mignonne.
Voilà, c'est pas une démo kawaii.
Il y en a qui ont passé plus de 15 heures dessus pour la finir vraiment à fond. Et il y a plein de choses à voir, puisque là, regardez, en fait, voici le héros. Le héros, en fait, c'est puisque l'histoire est historique. C'est le premier samouraï occidental, le premier samouraï blond d'un père seigneur japonais et d'une mère occidentale. Ça se passe dans les années 1600. Il arrive au Japon. Alors au début, boum, on a un accoutrement somme toute assez léger. C'est vraiment le côté RPG à la Dark Souls, donc ça veut dire que vous pouvez customiser énormément d'éléments, les bras, les pieds, les jambes, la tête, etc.
Il fait penser à Geralt de Rive.
Visuellement, c'est Geralt hein, de The Witcher. On est super d'accord. Et plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir récupérer des équipements qui vont vous faire de vous un véritable samouraï avec une armure, etc., qui est d'ailleurs assez, assez classe et qui va augmenter, bien sûr, vos attributions. Côté RPG toujours, bah là, on va le voir dans les images.
Mais sérieusement, je l'avais pas vu tourner, mais en fait, c'est carrément un plagiat de Dark Souls, non ? Parce que ça, les menus aussi, j'ai l'impression que c'est la même chose.
Ah non, mais c'est très, très, très Dark Souls. Hein. Et donc, tu peux améliorer énormément d'éléments, d'énergie, de vie, la tête, le machin. L'ambiance est vraiment top. Graphiquement, c'est pas le plus beau jeu qu'on a jamais vu sur console next gen. Il sortira en exclu sur PS4, mais il y a un petit style qui est plutôt réussi. Alors après, c'est vraiment super super dur, c'est à dire que comme dans Dark Souls, au début quand tu vois un ennemi tu te dis ouais ça va, mais en fait c'est déjà chaud. Mais alors quand il y en a deux là, par exemple là, c'est vraiment très compliqué. Il faut gérer les timings, la garde haute, basse, intermédiaire. Tu peux mourir en un coup sorti de nulle part, mais vraiment en un coup hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois là dans cette
tu es en train de me dire
découverte.
Que tu n'étais pas sûr de ta force, donc c'est un jeu dans lequel tu es obligé de reculer un petit peu avant
ah ouais complètement
frapper.
Ah là là
c'est
là.
La stratégie Nintendo
ouais, ouais. C'est ça ouais. Non, parce que je suis sur le terrain de bataille, je suis sur le champ de guerre, donc
tu vois,
moi j'y vais, mais j'y vais, j'ai envie d'avoir envie. Donc oui, il faut gérer les roulades, les esquives, parer et compagnie. Vous voyez les espèces de trucs rouges là sur le sol, en fait vous pouvez faire revenir des âmes damnées qui sont encore plus fortes que les adversaires que vous allez pouvoir rencontrer comme ça, mais qui vont vous donner des équipements supplémentaires, puisque en fait c'est comme Dark Souls, on va dire, il y a le feu de camp. Donc si vous mourrez, même loin hein, parce que je suis allé relativement loin quand même, tu reviens au début.
Comme si ça ne s'était rien passé.
Sauf que tu gardes quand même ce que tu avais récupéré.
D'accord. Ah bon, c'est déjà ça.
Donc au fur et à mesure, tu vas quand même pouvoir améliorer. Si on peut avancer dans la vidéo, Poufy, genre bien notablement. Pour les premiums, évidemment, exclusivité premium. Tu vas voir, regarde l'équipement, là je suis en petite chemisette, petit truc. Et si tu avances bien bien dans la vidéo, tu verras, j'ai quand même bien amélioré mon équipement.
J'ai une chemisette
rouge. Chapeau, j'ai un plastron. Tu peux aller vraiment quasi à la fin. Genre le dernier. Voilà, regarde, j'ai le petit plastron de samouraï. Même encore un peu plus tard.
T'as une jolie petite lance aussi.
Exactement, ouais, la lance. lance.
Pardon, une jolie lance de faible envergure.
Non, non, quand c'est la taille, il n'y a pas de problème. C'est quand c'est les petits, un petit événement, un petit machin. Il faudrait que je vous retrouve ce bouquin. J'avais parlé avec un pote et j'avais trouvé ça très juste.
Mais qu'est-ce que tu penses du chanteur Tom Petty du coup?
Mais non, mais ça n'a pas de problème, ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est beaucoup plus
pas pareil.
Bah non.
Bon.
Non,
donc,
mais au cas où.
Donc, franchement, ambiance. Très classe. En plus, t'as des invocations. T'as des invocations qui viennent des kami japonais. T'en as quatre différents. Il faut faire charger sa jauge. Par contre, là, tu l'as vu avec les orbes et tout. Bah, très Onimusha. Onimusha pour le genre. Onimusha. Enfin, pour le genre, pour l'ambiance, pour la thématique, forcément.
C'est Japon féodal et mystique.
C'est magnifique.
Donc, forcément, nous, on aime beaucoup. Voilà. Mais. Bah, soyez prévenus, hein. C'est masochiste, quoi.
C'est vraiment, c'est un style de jeu, les Souls, Bloodborne, etc. Faut vraiment avoir du courage et de la patience. Moi, personnellement, je n'y arrive pas.
Il y a de plus en plus de convertis. Hein.
Ouais, mais
si
alors,
je peux pas, j'y arrive pas.
Bah alors, franchement,
au bout d'un moment, j'ai envie de casser la manette.
C'est super dur quand, en plus, tu dois faire une démo en live et donc commenter en même temps. Donc, c'est-à-dire que t'as le regard concentré sur ce qui se passe. En même temps, tu regardes un peu la caméra.
Et le
tu
jugement.
Commentes ce qui se passe.
Le jugement des gens.
Le jugement des gens.
C'est le jugement des gens.
Les gens s'en branlent.
Ah bah, vous avez aimé moi ou détestez moi, je m'en fous.
J'y parle mal. Je sens un petit sourire au coin de la lèvre.
Non, mais je vous aime beaucoup, mais je veux dire, j'avance avec ce que j'ai envie de faire. Voilà. Non, mais si je meurs, j'ai pas de honte à mourir.
Bien sûr.
Je l'ai même mis en titre. J'ai souffert et je suis mort 666 fois.
Tu prends tellement tout au premier degré, ça devient incroyablement dur pour moi. Tu sais, à chaque fois que je parle, je dis un truc, tu me crois. Genre, je te juge. Mais non, je t'ai pas jugé.
C'est parce que j'ai rien à foutre. Je t'ai convaincu, c'est pour ça.
Mais non, je suis pas convaincu.
C'est juste que j'explique.
J'ai dit que parce que le plus mot est convaincant, c'est
pour ça. Tu es convaincant, tu es un bon acteur.
C'est super.
J'aimerais bien la comédie.
J'aimerais bien, c'est pas le cas.
Et donc je trouve qu'au fur et à mesure, eh ben, j'ai pris du plaisir et que plus ça avançait, plus je me disais, je peux pas m'arrêter maintenant parce que j'ai envie d'un dernier run. Parce qu'au fur et à mesure, tu comprends. Tu commences à faire
à
ah ok, le mec il réagit comme ça, d'accord. Alors attends, je vais parer comme ça. Si je suis en posture haute, en fait, je fais plus de dégâts, mais je suis plus lent. Alors attends, je vais essayer comme ça. En fait. Bah c'est vraiment prenant et assez cool, donc je vais m'y remettre d'ailleurs mais sans le filmer pour voir si je suis pas un peu meilleur quand même.
Parce qu'il faut une fierté quand tu y arrives en plus.
C'est ça. Bah oui, t'as plus qu'une fierté, t'as un bonus même pour les personnes qui auront la version finale. Ils vont en finissant la démo.
Un DLC, non ?
Alors visiblement c'est en arrivant à un certain point, il y a pas d'explication, mais si tu finis la démo en gros, t'auras droit à un DLC supplémentaire.
Ça, c'est
Mark
cool,
of the Conqueror, je crois qu'il s'appelle.
C'est tout à fait ça.
Qui sera offert donc ça vaut le coup en plus, tu vois, de jouer à cette démo alpha.
Mais l'univers est fantastique.
Moi quand j'avais vu quand il avait été présenté au dernier TGS, la bande annonce m'avait bien plu, donc je pense que je vais m'y essayer aussi.
Mais même au TGS,
même on va avoir des devoirs avant de
s'y
essayer.
Pas mal de trucs au TGS, mais on était dégoûtés de pas pouvoir y jouer. On avait cru pouvoir poser les mains dessus, on était un peu écœurés, on avait juste vu une vidéo, on
voilà,
était resté un moment devant.
Une longue vidéo qui avait permis de voir qu'il y a quand même une vraie variété d'environnements en plus.
C'est très beau.
Il y a les petits villages japonais, il y a les cavernes, il y a les fronts de mer, etc. Avec
ça
des
qui
super invoques
en fait.
Un peu classe. Quoi.
Le côté Dark Souls, c'est pas mon style de jeu, mais ça me dérange pas au fond, mais c'est juste que l'univers me branche pas forcément là. Le cadre dans lequel se déroule Nioh me parle plus qu'un Dark Souls.
Imagine que ça se passe dans les couloirs de la WWE.
Mon dieu.
Comment tu kifferais? Tu joues l'Undertaker.
Mon équipement là.
Comment veux-tu faire un Dark Souls like dans la WWE?
Bah, l'Undertaker, quel droit, qui pourrait mourir plein de fois.
L'Undertaker.
Ouais, franchement, moi je pense que ça serait possible.
Non, mais t'imagines un Survival Horror avec le niveau de difficulté d'un jeu comme ça.
Un Resident Evil avec le niveau de difficulté
d'un Dark Souls où tu dois vraiment gérer ton équipement, tes soins, mais de manière bien plus pointue que ce qu'on peut faire actuellement dans un Resident. Avec le genre les plastrons que tu pourrais mettre. Bon, ça c'était mieux protégé, mais t'es vachement plus lent et en plus ça diminue ta visibilité, donc tu vois pas les zombies arriver. Enfin, t'imagines,
et
t'imagines
en
ce genre
virtuelle.
De
truc. Le jeu de fou, vrai Resident Evil avec l'ambiance des Resident Evil, la difficulté d'un Dark Souls et la réalité virtuelle.
Et, bah là, et les sons de Super Mario 64. Non, c'était plus juste pour casser l'ambiance. Voilà, donc finalement Nioh. Finalement Nioh, donc bonne petite expérience, douloureuse mais bonne.
Je vous invite, c'est gratuit, hein. Téléchargez-le, il reste encore quelques jours. Je crois que ça va jusqu'au 5 mai ou 6 mai.
C'est ça, oui. Jusqu'au 5 mai, on peut plus y
après. Après, on pourra plus y jouer.
Ah non.
C'est pas vraiment une démo, c'est vraiment
une alpha. Bêta.
D'ailleurs, tu es connecté en permanence
oui,
et tu peux pas faire autrement.
Non, certainement pas le temps, malheureusement. Fichtre.
Ouais, on va avoir des devoirs avant 5 mai. Bref, on va passer maintenant au dernier thème qui est beaucoup moins douloureux quand même hein, que ce Nioh.
Un thème pour nous ?
Un thème pour nous deux, en particulier.
J'aime.
Puisque l'épisode 2 de ce Hitman épisodique 2016 là est arrivé, Sapienza est arrivé mardi 26 avril sur PS4, Xbox One et PC. Et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par ce niveau, même si, allez, je vous le dis, j'avais déjà essayé en preview il y a quelques semaines. Là, j'ai eu la confirmation que la taille, ça compte finalement.
La taille, ça compte. Là, c'est la carte n'est pas petite, Julien. Ouais.
Ah, mais vous pouvez
elle est même,
fois,
je elle est même grande.
Sur la taille, vous pouvez utiliser le mot petit.
Mais c'est la première fois en fait que Hitman nous fait voyager dans un village entier. Tout bêtement, c'est pas un,
c'est
petit, un petit pâté de maison,
c'est pas une
boîte de nuit, c'est pas une villa.
Voilà.
Puis c'est vraiment c'est
carrément
joli.
Voilà.
Ouais, t'as toute la station balnéaire de
exactement.
Sapienza.
Sapienza, une ville fictive de la côte méditerranéenne italienne, très typique, vraiment. Moi qui étais en Italie il n'y a pas très longtemps pour une tiéprie bourgeoise, je peux vous dire que ça ressemble à peu près à ça, hein, les bleds dans lesquels je suis allé au nord-ouest de l'Italie. Donc on retrouve une bonne ambiance un peu, un peu rital, avec autant les touristes.
Le sud,
ouais, voilà,
un peu. Hein.
Un peu le sud aussi. Avec donc les touristes, les comment
les
dire
glaces.
Les quoi
les glaces, ouais,
bah, des petites
les
boutiques,
les terrasses de café, les
voilà.
Commerces, la plage,
les Vespa, les Fiat 500, tout ce que vous voulez. J'ai pas vu de pizza, mais bon, après c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas tout vu non plus.
Il y a
un fleuriste à qui il arrivait des bricoles.
Tout à fait.
Il y a le boucher du coin. Enfin bon, bref, la petite plage, l'église. Il y a des tonnes d'endroits à aller visiter.
Des petites rues piétonnes.
Et des opportunités à tous les niveaux. Alors le plus près. Quand vous commencez cet épisode, c'est un psy qui visiblement va devoir rendre visite à une de vos deux cibles.
Alors c'est pas celui-là moi que j'ai eu en premier.
C'est vrai. Alors
c'est
dis-moi.
Ouais, moi je me suis tout de suite dirigée vers sans spoil, hein, vous inquiétez pas. Donc sur la droite et je suis tombée sur la nana sur le commis de cuisine.
Ah oui, bah alors ça c'est la petite scène rigolote où effectivement t'as une sœur qui vient engueuler son frangin parce qu'il est en retard à un boulot auquel elle l'a conseillé, et du coup ça vous donne aussi une autre opportunité de vous introduire dans le fameux manoir où se trouvent vos deux cibles plus une cible annexe, on va dire, qui est le virus que les deux personnes que vous devez zigouiller doivent
un manoir
doivent...
un virus tout marche comme
oui.
prévu
exactement
ouais, absolument.
Et justement.
Mais un virus extrêmement dangereux, hein.
Ouais. Avec
qui touche à l'ADN humain,
avec un petit changement d'ambiance d'ailleurs, hein. Quand vous arrivez aux alentours de ce virus, il y a une petite musique à la James Bond, t'as l'impression d'être dans la base secrète de Dr No. C'est assez savoureux, on n'en dit pas trop. Et donc on se retrouve avec effectivement toujours des problèmes d'IA, toujours
c'est
un
clair.
Problème de chargement qui
c'est
est
clair.
Un peu ultra relou au début, et si jamais vous avez le malheur de mourir et de ne pas avoir fait vos sauvegardes manuelles avant, vous allez devoir vous retaper beaucoup de choses en termes de chargement. Il y a toujours cette petite impression aussi que on a des mécaniques un peu anciennes, mais ce n'est qu'une impression parce que en termes de possibilités de costumes et de comment dire d'approche, il y a des choses nouvelles qui ont été mises en place, des choses assez comiques, hein. Par exemple, j'ai fini mon premier run. Au deuxième, ça m'a débloqué une nouvelle planque de départ. Truc qui était aussi dans
Parce qu'on peut choisir d'où on commence effectivement la mission, hein. Il y a plein de
voilà,
lieux
qui était aussi possible dans la mission parisienne de l'Intropack. Dans cette planque, j'ai trouvé une balle de golf explosive. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec? J'ai trouvé quelques minutes plus tard et le résultat était très rigolo. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont disséminés partout en fonction du costume que vous portez, en fonction des armes ou des éléments interactifs que vous pouvez trouver. Alors évidemment, il y a toujours le vomitif, le poison.
Il
y a toujours un snipe quelque part pour tirer en haut du clocher pour avoir les cibles quand vous le voulez, mais il y aura aussi d'autres possibilités en fonction.
C'est vraiment beau, hein.
J'adore le cadre.
Je me suis
très
même déguisé en prêtre pour
tu t'es déguisé
dire.
En prêtre aussi.
Je me suis déguisé en prêtre aussi, mais effectivement c'est ce qu'il y a de nouveau entre guillemets dans cet épisode, parce que finalement quand t'as joué au premier, il y a pas de différence, il y a pas d'ajout, etc.
Ouais.
C'est vraiment le lieu qui est donc d'une part plus grand. Mais qu'est-ce que c'est beau,
les images qu'on voit, c'est sur PC ou
ça c'est la version PS4 que
c'est
enregistré.
C'est magnifique. Et il y a 1 milliard de PNJ, et pareil, alors déjà ça m'avait frappé dans le premier épisode à Paris, mais là en plus c'est encore plus grand. Effectivement, au lieu d'avoir une simple villa, t'as toute la ville autour. Et j'en ai même suivi certains, tu lèves les yeux, il y en a au balcon,
fumée,
les terrasses, les gens sur la plage en train de bronzer. C'est beau, c'est vraiment magnifique. Enfin je veux dire, c'est le cadre est vraiment génial. T'as l'agent 47 qui a son petit polo avec ses lunettes. Enfin, je veux dire, c'est juste fantastique. Alors par contre, un petit bémol aussi également, mais qui est pas très très grave à mon avis. On aura une réponse à la fin des épisodes. Effectivement, les deux missions pour l'instant sur lesquelles on a joué, c'est vachement décroché. Elles se suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas vraiment de scénario pour l'instant. On peut pas dire qu'il y a une vraie trame. Alors... on sent qu'il y a un truc, mais il y a pas de truc. Y a
alors
pas
le
vraiment
truc, c'est qu'ils nous ont vendu effectivement un scénario de fond, une espèce de trame très mystérieuse avec un personnage qu'on a vu à la fin du tout premier volet. Le truc, c'est que c'est quasiment pas développé. Quoi. C'est une cinématique, ouais. C'est encore plus mystérieux et du coup,
voilà. Donc tu fais cette.
Au lieu d'avoir un cliffhanger, on se retrouve avec un truc nébuleux qu'on sait pas. On sait pas trop où ça va nous mener.
Tout à fait.
Du coup, on se retrouve finalement avec juste un jeu qui est vachement bien. Enfin, un niveau qui est vraiment, de très très haute volée.
Moi, il y a quand même un truc qui m'inquiète dans ce que tu dis. C'est parce que moi, sur le premier épisode, j'avais trouvé ça pareil, super joli. J'avais trouvé ça plutôt cool. Mais l'IA était quand même.
Ah, ben l'IA n'est toujours pas.
C'est pas du tout équilibré. Parfois, c'est trop dur.
C'est un peu dommage quand même dans un jeu d'infiltration.
Alors, trop simple.
Le truc, c'est que, comme pour le premier épisode, et je pense que ça va rester comme ça toute la saison, l'IA, elle dépend vraiment de toi, de ton roleplay. Tout bêtement. Si jamais tu es
trop pressé,
exactement. Si tu te confonds vitesse et précipitation, c'est tu vas te retrouver avec une IA, mais complètement aux fraises.
Ouais, voilà.
Je sais pas combien de fois, d'ailleurs, peut-être dans cette vidéo, hein, on peut voir à un moment, je vois deux hommes de main, j'essaie d'en savater un, l'autre il bouge pas. Il me regarde avec sa main sur son holster comme ça.
Ça te sent quand même totalement.
Et je les enchaîne tous les deux l'un après l'autre jusqu'à ce que j'arrive enfin à briser la nuque d'un des deux.
Ça c'est super nul. Quand même.
Bah ouais, mais c'est.
Alors ça m'est pas arrivé. Hein.
C'est le truc, c'est qu'il faut
Moi,
rester.
Moi j'ai eu le contraire. J'ai eu le contraire.
Trop fort.
Ouais.
Bah ça
j'avais rien fait. J'étais tranquillement dans la cuisine en train de mettre de la morora dans un plat. Bah, je veux dire, à un moment donné, il faut laisser les gens travailler. Et puis d'un coup, ils se sont tous excités alors que j'avais pas été justement trop vite. J'avais fait les choses. En mode Julien Chies justement, pas en mode Carole Quintaine. C'était calme et tout, et d'un coup ils m'ont tous repéré, tout le monde était énervé, tout le monde me poursuivait, alors j'ai été obligée de fuir et je suis allée me cacher à l'église.
C'est ce qu'on fait en général, hein.
Ouais,
c'est ce que les Highlanders font en tout cas, les immortels font quand ils ont des problèmes, ils vont à l'église, c'est un terrain sacré, on n'a pas le droit de se battre dedans, bref.
Voilà.
Tout ça pour dire que ce deuxième épisode va, enfin pour moi il passe un cap par rapport au premier,
c'est clair.
En termes d'envergure.
C'est
différent, voilà. L'ambiance est différente, la façon dont on retrouve, effectivement il y a beaucoup de monde hein, comme on le disait tout à l'heure,
ouais.
Mais c'est pas tous réunis dans une seule pièce,
non.
C'est éparpillé, du coup ça rend l'environnement plus crédible,
plus réaliste,
plus réaliste. Bon voilà,
il y a même la corniche, tu peux aller sur la plage, enfin ouais. Je veux dire, tu peux aller dans les petites rues, c'est
il y a des tonnes de possibilités,
c'est fou, sur les toits.
Et puis c'est à la carte quoi. Si vous voulez pas vous utiliser l'instinct pour voir ce qui se passe autour de vous, pour savoir qui peut vous reconnaître, si vous voulez ne pas vous faciliter la tâche, c'est largement possible. Et puis n'en parlons pas aussi des missions qui vont être proposées en plus, les missions escalade qui existent déjà pour faire 5 fois de suite un truc qui va monter, plus les missions créées par la communauté. Bref, et alors largement de quoi s'amuser. En plus ça donne envie d'y retourner pour gagner des points de maîtrise et donc débloquer encore de nouveaux éléments.
Bien sûr. Mais non, mais même les opportunités, ça offre une rejouabilité qui est quand même très intéressante.
Et t'as le droit d'activer ou pas.
Il y en a 5 ou 6, je crois, par mission, il me semble. Enfin, il y en a quelques-unes.
Des défis, il y en a des dizaines.
Voilà, mais les opportunités. Et c'est vraiment, ça donne envie de toutes les saisir, puisqu'il y en a plusieurs. T'es pas obligé de tomber sur toutes les opportunités, mais si tu veux toutes les faire, et puis t'es pas obligé de les réussir, encore une fois. Hein.
Ouais.
C'est pas parce que tu les saisis que tu vas les réussir. Par exemple, moi, j'en ai saisi une. J'avais rendez-vous avec une des cibles sur la jetée. Je l'ai ratée. Je sais pas comment je me suis démerdée d'ailleurs, mais c'est vrai que ça ajoute une rejouabilité, un intérêt, ça donne du sel à l'expérience.
Ouais, et puis surtout, enfin, à chaque fois que vous prenez une de ces opportunités, il y a une espèce de mini scénar qui se développe et c'est souvent très très drôle. Quand vous jouez le psy, ce que va vous confier la cible, c'est plutôt marrant. Quand vous allez être fleuriste, la façon dont vous rentrez à l'intérieur et dont vous allez épier encore une fois la cible, ça va être très drôle. Il y a plein de
histoire de détective privé.
Ouais, c'est une histoire de détective. Si j'y suis allé aussi. J'ai essayé à peu près 6 trucs différents et encore il y en a d'autres que j'ai essayé qui n'avaient rien à voir, je me suis aiguillé tout seul. C'était vraiment super plaisant et malgré les défauts, encore une fois,
non, c'est tu t'amuses.
Ça marche,
en fait, tu t'amuses.
Super bien,
ouais, voilà. Ça
et
fait
le prochain épisode il arrive quand?
Il arrive au mois de
prochain,
mai. Ce sera un épisode à Marrakech, ouais. Une fois de plus, je peux pas en dire trop, j'ai eu un aperçu, je pense qu'on va encore une fois passer un certain degré en termes d'envergure de niveau et que ça risque d'être assez compliqué d'approcher les cibles qui nous seront proposées.
Mais c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout qu'on a deux cibles. Donc à un moment donné, tu vas passer une heure.
Avec
le virus. Et là, quand t'arrives en fait à en avoir une, t'es content, t'as passé une heure. Du coup, il y a la deuxième, alors tu te rates. Alors faut recommencer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bien fichu. Et effectivement, j'ai hâte d'arriver à la fin parce qu'on aura 7 épisodes, c'est ça, cette année ?
Normalement, c'est ça, oui.
C'est 7 épisodes à la fin, au 7e épisode, ça arrête pas de grossir.
Ça finira au Japon, d'ailleurs.
Enfin, ça finira au Japon. Et t'imagines si la carte est.
Au Japon. On sait pas plus que ça.
Le Japon, tu sais, c'est un très beau pays.
Si c'était dans une ville, genre à Tokyo,
si c'est réalisé comme ça, ça va être chouette.
Ça va être magnifique, t'imagines. Et si c'est encore plus grand, dans Tokyo, par exemple.
Imaginez à Shinjuku.
Est-ce que c'est urbain avec genre plein de monde?
Genre, tu dois passer au milieu de la foule. Genre, les premiers trucs d'Assassin's Creed qu'on voyait, tu vois, tu dois croiser ta cible, je sais pas, au passage piéton pendant que tout le monde passe.
Bah alors, s'ils font ça, ça pourra pas être beau comme ça. Parce que là, dans les images qu'on a vues, les décors sont très très beaux, mais en termes de population, c'était pas méga dense. Hein.
Paris est déjà très beau avec énormément de monde.
Ouais. Et là encore plus je trouve, je t'assure, mais c'est vraiment bluffant.
Mais ils ont affiné la technique pour le deuxième épisode. Il y a vraiment des trucs au niveau des effets de lumière et des textures qui sont bien mieux faits encore
qu'ils ont renvoyé sur le premier aussi.
Le premier reste à peu près. C'est vrai.
Faudrait qu'à la fin je me les refasse tous.
Bah de toute façon c'est ce qui risque d'arriver. Le jeu complet lui arrivera en 2017 en téléchargement ou en boîte. Il reste encore quelques épisodes. Alors c'est Season Pass si vous voulez tout. C'est 49,99€ je crois sur PC et 59€ sur console. Et l'épisode seul c'est 9,99€ Maryse.
Et ça les vaut largement
parce que vous allez vous éclater.
Vie, franchement qui est honorable.
Exactement.
Ouais.
Voilà, et ben maintenant, vous savez ce qu'on va faire maintenant qu'on a parlé de tout ça ?
On va tous aller se faire foutre.
Exactement, Non, absolument pas. Comme chaque semaine, vous le savez, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, nous allons passer au hors-jeu, à notre petit hors-jeu hebdomadaire, et nous allons commencer avec moi-même. Et oui, j'ai envie de m'introduire aujourd'hui. D'ailleurs, je vais m'introduire immédiatement.
Où t'étiez pris ton tel rendu
Elles m'ont rendu à Paris. Elles m'ont rendu à la Gaîté Lyrique où j'ai pu, par hasard en fait, parce que j'avais vu une affiche dans le métro, me rendre à une exposition qui s'appelle Extra Fantôme, qui se tient en ce moment à la Gaîté Lyrique, qui dure jusqu'au 31 juillet prochain. C'est une expo. Alors là, je suis obligé de dire qu'elle est petite parce que en taille, elle est pas très grande.
C'est de la taille, y a pas de problème.
Mais qui est très intéressante parce qu'elle vous fait vivre des petites expériences. Mais c'est des petites expériences parce qu'elles sont très courtes.
Voilà.
Pour vous immerger un petit peu dans l'univers fantomatique. Alors voyez par exemple si vous êtes premium qu'il y a la possibilité de voir une main qui passe sous un scanner et cette main va se mettre à bouger, à se déformer en temps réel. Il y a des petites apparitions aussi sur des téléphones.
Tous 6 doigts sur la main.
Il y a une pièce très reposante où un artiste a mis des oreillers en fait illuminés les uns après les autres dans une pièce noire qui s'envole un petit peu, qui flotte comme ça. C'est très rigolo. Une autre avec une webcam qui va vous filmer et qui va donner votre rendu on va dire votre rendu spectral. Un miroir aussi quelque part qui va vous donner un petit peu votre totem animal. C'est vraiment une expo qui est fascinante, mais alors vraiment fascinante. Une autre aussi qui vous montre effectivement votre rendu fantomatique en quelque sorte.
C'est
et il y a un autre truc qui vous montre un petit peu votre rendu virtuel. Ça marche avec Kinect. Vous arrivez devant une télé et là vous allez avoir un éclairage sur vous un petit peu façon polygonale, je sais pas trop comment l'expliquer. Il y a du fil de fer qui apparaît sur vous et qui va se déplacer en même temps que vous vous déplacez. C'est une expo qui m'a fasciné vraiment pour tout ce qu'elle a montré, qui parle des ondes aussi, des rapports, enfin de toutes les recherches
voilà,
c'est ça exactement. Ça marche avec le premier Kinect. Il y a des rapports sur les ondes, sur le fait que certains chercheurs ont entendu des voix de l'au-delà peut-être sur certaines fréquences. Vraiment allez-y, c'est 7,50€, c'est tous les jours sauf le lundi il me semble, jusqu'au 31 juillet prochain à la Gaîté Lyrique à Paris.
C'est une petite exposition, il n'y a pas beaucoup de choses à voir, c'est ça?
Il y a 4 environnements et ils sont pas gigantesques.
Une petite heure
Oh oui, une petite heure. Mais si tu te mets à regarder une pièce, il y a une pièce avec un documentaire, il y en a une autre bah, dans cette même pièce où il y a un petit bouquin à lire avec différentes explications justement sur toute l'exposition, sur tous les artistes, sur où ils ont voulu, aller. Franchement, tu peux y rester. Puis surtout cette pièce là, si elle n'était pas frigorifique, franchement, cette pièce, j'y serais resté. Tu te retrouves sur des canapes à pouvoir regarder ces oreillers.
Clim,
ouais, il fout une clim pas possible.
Je sais que toi, c'est super. Pas possible la clim.
Et donc les oreillers qui volent là, lumineux, c'était. Franchement, je m'y serais endormi sans aucun problème, mais c'était complètement gelé. Donc voilà. Je le conseille à tout le monde.
Bah écoute, on ira. Probablement.
Avec plaisir, ça ira bien.
Bon, et ben on va passer à ton hors-jeu du coup, Julien.
Ah, je vous emmène hors de Paris, hors de la capitale.
Dans une tiépris bourgeoise aussi.
Dans une belle, pour une belle journée. C'est au Futuroscope. Moi, je me souviens du Futuroscope quand j'étais petit. J'étais allé avec mes parents et on avait découvert ça vraiment au lancement du Futuroscope il y a maintenant plus de 20 ans.
Oh, oui, ça date.
C'était 86. Non, 87.
Quelque chose comme ça, ouais. Hein, et je trouve que. Et donc là, on l'a redécouvert il y a très peu de temps avec Carole. Et ça a clairement bien changé, bien évolué. Ils ont ajouté pas mal de choses. Alors là, les images qu'on est en train de voir, c'est la nouveauté. C'est la forge aux étoiles qui est proposée par le Cercle du Soleil. J'ai eu la chance d'aller voir plusieurs spectacles à Las Vegas du Cercle du Soleil qui, à chaque fois, m'avaient émerveillé. Et donc, savoir.
C'est vrai que t'es allé à Vegas, toi, j'avais oublié.
Bah, dans une autre vie, ouais. Et donc là, ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, c'est le spectacle nocturne hein, avec effets pyrotechniques, laser, projection, son et lumière, blablabli. C'est plutôt réussi. Il y a un personnage, celui du DJ, que moi, je trouve un peu... bon, voilà, mais je ne suis peut-être pas exactement dans la cible. Ça, c'est la partie peut-être un peu plus pour les enfants. Mais pourquoi le Futuroscope, ça m'a intéressé et je vous en parle, c'est qu'on a fait une expérience avec Carole qui est proposée là-bas et qui alors, n'a rien de futuriste, bien au contraire, mais qui est présente dans le parc.
Très instructive. En
fait. Exactement. C'est une immersion totale. Total dans le noir absolu, dans la peau d'aveugles ou de personnes extrêmement malvoyantes. Ça dure à peu près 20-25 minutes et on va aller dans plusieurs lieux à New York, dans le Bayou en Louisiane. On va aller sur le Mont Everest et un quatrième endroit, je ne me rappelle plus trop.
Alors il y avait le Mont Everest, il y avait New York, effectivement.
Si ça nous revient, on vous dira. Et donc, c'est complètement plongé dans le noir, on avance comme ça, on est dirigé par un non-voyant aussi, et c'est là où on voit la dextérité, c'est-à-dire que vraiment ça transcende les sens, puisqu'au bout d'un moment assez rapide, en fait il y a des jeux d'odeur aussi, évidemment de son, même de texture au toucher,
même
on
utilise
le toucher par exemple sur l'Everest. Quand on appuie un peu, on tend ses mains et tout, puis on sent de la glace, quoi. Ils ont mis de la glace, de la roche.
Le
vent souffle, on se prend du vent. On prend un petit pont de singe.
Mais ce qui souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine.
Oui, évidemment.
T'as embrassé ta femme, ton fils et
ouais,
ton
bien
domaine,
sûr, à qui plus tu forcément venu me chercher d'ailleurs. Hein.
Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée.
Absolument,
c'est
ouais.
Ça. C'est beau. Et bah, c'est extrêmement instructif. C'est très immersif. C'est vraiment, je trouve, moi j'ai vraiment aimé cette expérience-là.
Et en plus, tu devrais aller dans le restaurant dans le noir, alors à Paris.
Ouais. Oui, tu devrais. Mais ça me branche moins, moi. Il faut que je vois ce que je mange, sinon ça va pas le faire.
Oui,
ça
mais
pas le faire.
Quand t'as le droit de dire. Non, t'as le droit de dire ce que t'aimes pas, et puis t'inquiète, ça se passe bien.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, c'est la seule attraction à l'intérieur, parce que le Futuroscope, c'est comme Disney, Astérix, etc. Vous payez votre billet d'entrée, puis après, tout est gratuit. Sauf celle-là, où il faut s'acquitter d'un petit droit de passage, je crois, de 5 euros par personne.
Non, c'est 10 euros.
10 euros par personne.
Ouais.
Je crois que c'est 5.
7,5, allez, on va couper
sûr,
en deux.
Bref, et qui est reversé en fait à des associations pour l'aide aux aveugles, aux malvoyants, etc. Donc vraiment, je vous invite à le faire, c'est très surprenant. Et puis au-delà de ça, le Futuroscope, il y a eu plein de nouveautés techniques qui se sont mises à jour. Par exemple, il y a le grand cinéma géant qui maintenant projette en 3D laser. C'est fait avec IMAX, etc. C'est ultra impressionnant.
C'est fantastique.
Le film est assez génial.
C'est très beau.
On suit l'histoire d'une petite
petit
rongeur, voilà.
Et une souris et un scorpion.
Exactement,
et
qui part dans une aventure, mais avec des serpents, des trucs. C'est filmé, mais je sais pas comment ils ont fait. Il y a un déluge avec l'eau qui arrive au ralenti, il y a un serpent qui arrive comme ça. Pour une fois, c'est de la 3D, moi j'aime pas ça, relief, qui fonctionne, avec une belle luminosité. L'écran est tellement gigantesque, c'est le plus grand d'Europe. C'est un immeuble de 6 étages, je crois. Enfin, vraiment, ça tue et ça a été vraiment bien mis à jour par rapport à l'avant-dernière fois où j'y étais allé, où je trouvais que bon, il fallait monter un petit peu la qualité sur certains trucs.
Mais les lapins crétins, vous avez pas fait un truc
comme ça? On a fait les lapins crétins aussi, c'est très sympa.
Je l'avais fait déjà au lancement de.
Mais ouais, ça marche bien, c'est sympathique.
C'est sympa.
Votre retour sur le Futuroscope m'intéresse vachement parce que moi, je suis un grand fan de parcs d'attractions et le Futuroscope, je l'avais fait une fois en 95. Et j'y étais retourné il y a une dizaine d'années environ. En une demi-journée, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. C'était la même chose.
J'espère que
t'es pas allé au Puy du Fou.
Un parc qui s'appelle le Futuroscope, donc qui met vachement en avant la technologie, les trucs futuristes. Et là, je me refaisais les mêmes attractions qui, depuis, étaient totalement dépassées technologiquement. Ils avaient juste rajouté le machin danse avec les robots. Ça, c'était l'attraction un peu moderne du truc. Mais alors, tout le reste n'avait pas bougé. Je m'étais dit, oh, mince, bon, on a fait deux fois de danse avec les robots.
95,
et après, en 2005, la
2005,
dernière fois.
Voilà,
2005,
2006. 10 ans plus tard, moi, je trouve, en tout cas, qu'on a passé une super journée. Il y a une autre attraction dont je voulais parler.
Il y a même une maison, la maison du futur, il faut que tu en parles.
Exactement, la maison du futur. Alors c'est pas une attraction, il faut vraiment pas se dire que c'est Disney ou
moi je m'en fous,
il y a pas de sensation extrêmement forte.
En fait.
C'est quoi le but, c'est qu'on fasse semblant de s'engueuler, c'est ça là-dessus?
non mais c'était pas au niveau des attractions, c'était juste que je trouvais que les expériences, les petits spectacles et tout ça, ça avait pas bougé quoi, ça faisait vieux.
Eh ben là, moi je trouve que par exemple, il y a toute une zone future, etc., où tu vas te balader dans une maison un peu du futur, tu vois de la reproduction avec des imprimantes 3D qui font devant toi des trucs.
Parles de reproduction d'imprimantes qui font des trucs devant toi?
Non, des imprimantes qui font des reproductions.
Non, parce que je pensais à des imprimantes qui sont en train de se reproduire.
L'amour technologique.
Ça, c'est la singularité, c'est dans 20 ans. Il y a Kinect aussi, voilà, tac, qui te permet de voir. Tu te changes, tu mets des costumes, des habits, etc.
La chambre aussi.
La chambre où tu peux mapper, en fait, un petit peu comme Illumiroom. Bah là, hop, tu peux changer les ambiances dans ta chambre. Alors tu te dis, ah tiens, là, je vais partir à la mer. Pff, tout autour de toi, c'est la mer avec l'ambiance. Tiens, je veux aller à la montagne. Et en fait, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment chouette.
Il y a le sable aussi.
Ça, c'est cool. Effectivement, il y a une caméra au-dessus qui filme et qui va mapper. En fait, tu as des espèces de petites billes, vous savez, en espèces de petits plastiques qu'ils doivent utiliser pour les enfants sur les terrains de jeux d'enfants, tu sais, un peu mou. Bah, sauf que là, c'est comme des grains. Et en fait, avec tes mains, tu vas faire en fait des formes, tu vas terraformer la zone, donc faire des montagnes, etc. Et en fait, la caméra détecte la hauteur des formes que tu vas faire et donc en fond en fait des volcans, des montagnes, un cours d'eau et donc tu vas pouvoir déplacer le truc pour que l'eau passe
et
tout ça
colorer,
se fait en temps réel
en fait,
C'est assez surprenant, c'est de la réalité augmentée finalement mais sans lunettes, sans rien et tout. Enfin il y a plein de petites expériences comme ça, tu peux être chronométré sur à quelle vitesse tu vas, tu fais un petit footing de je sais pas 10 mètres, enfin nous on a kiffé, il y avait plein de petites expériences très diverses
très cool,
qui projettent sur le futur. Le parc en plus je trouve a été un peu réhabilité,
il a dit petit,
oui mais parce que ça c'est pas grand. C'est pas un jugement de valeur, mais bon, si vous voulez.
Et
il y avait une autre nouveauté aussi, je crois que ça s'appelle le cube, où c'est une espèce de danse avec pareil plein de mapping vidéo, où il y a trois personnes, c'est peut-être ça que je dirais, bon, ils sont pas très nombreux, mais trois artistes qui vont danser, monter.
Avec des projections sur eux, c'est ça ?
Sur eux, mais sur tout autour d'eux, etc. Et donc tout change, il y a de l'eau qui va arriver, qui s'échappe et tout. Enfin, bon, bref, on a passé vraiment un super moment et dans un cadre, enfin, dans un registre très, très, très différent évidemment de Disney ou de Astérix. On a vu plein de vidéos en plus, les vidéos sont instructives et intéressantes. Donc franchement, moi j'ai été très content qu'on soit là-bas
et c'est vraiment une très belle journée.
Il y a l'air d'avoir beaucoup de changements, donc oui, ça m'intrigue tout ça. Mais c'est jouable l'aller-retour dans la journée? C'est ce que vous avez fait?
C'est ce qu'on a fait. Ouais. Très tôt.
En plus, soyons très clairs, c'est pas du tout l'affluence d'un Disney. Hein.
Ouais.
C'est très calme.
Donc, ça te
d'ailleurs,
fait même un peu bizarre.
On rigolait pas mal sur
c'est,
ça.
C'est à combien? C'est 1h30
assez
ici,
c'est
tu prends le TGV et ça t'amène, la gare, elle est dans le Futuroscope.
C'est la gare du Futuroscope.
Alors, si vous êtes parisien, mais après, le TGV dessert évidemment plein d'endroits, c'est la gare Poitiers Futuroscope.
C'est ça.
Si vous êtes parisien, c'est 1h30. Donc c'est très court. Le parc c'est beaucoup moins cher que Disney et effectivement à l'intérieur les queues tu fais pas les mêmes styles de queues parce que
après
le jour où on y était il pleuvait un peu, il faisait gris. Bon,
ouais,
voilà.
C'est hors saison là.
Même en pleine saison, tu sais, au total, je vais dire une bêtise, mais ils ont fait quoi, 1,6 million de visiteurs dans l'année en tout. Et c'est l'un de leurs records. Ils en sont très contents. Et c'est très très bien. C'est un très très beau succès. Disney, je crois que c'est 15 ou 16 millions. Donc
15,
en gros, dis-toi, il y a 10 fois moins de personnes. Voilà. Et c'est assez grand.
C'est un parc qui est très, très ancré dans les années 80. Quand tu y vas, il y a cette ambiance un peu.
C'est ça qui m'avait un peu.
Mais moi, ça me séduit. En tout cas, moi, j'aime bien. Mais effectivement, ça a beaucoup évolué et ça n'arrête pas.
Mais serais-toi.
De se renouveler.
Enfin, où serais-vous ? Évidemment, vous pouvez y aller maintenant. Hein. Mais en tout cas, il y a une attraction dont on nous a parlé et qu'on nous a un peu évoqué et montré pour la fin de l'année. Ou début 2017, début 2017 qui, à mon sens, risque d'être vraiment chouette. C'est un truc où on aura l'impression de voler. En fait, ils sont en train de refaire le pavillon qui s'appelait, je crois, à mon époque, le tapis volant, celui qu'on voit sur les pubs et tout, avec des espèces de tuyaux comme ça qui montent. En fait, c'est ce pavillon qu'ils sont en train de refaire où, en fait, tu vas être tenu par une nacelle et le film, en fait, va pareil, un écran géant devant toi, mais filmé comme si tu étais par-dessus. Et donc, tu auras l'impression, tu sais, de voler. Alors je sais, je l'ai pas essayé, donc je peux pas dire que ce sera bien. Mais en tout cas, l'idée m'intéresse beaucoup et je trouve ça chouette. En tout cas, on a trouvé qu'ils avaient une belle envie, une belle énergie et une belle volonté de dynamisme qui manquait peut-être. Tu as raison. Un peu au parc, ça stagnait pas mal.
En fait, c'était ça le souci.
Bah, ils ont eu des soucis d'argent, mais là, ça repart bien et ils sont contents. Et nous, en tout cas, on a passé une très belle journée.
Voilà, on en profite pour passer un petit bonjour à nos amis de Poitiers, Pimous et Julien, qui nous regardent et qu'on verra très bientôt à une soirée premium. On va passer au troisième hors-jeu de la semaine. Carole, c'est un film.
Oui, c'est un film, absolument.
C'est un film tiré, une adaptation d'un dessin animé, puisque Disney est en train de recycler un peu tout.
Exactement.
Ils l'ont fait avec Maléfique.
Ça recycle pas mal chez Disney. Et là, il s'agit bien sûr du Livre de la Jungle, sorti en avril. Dans nos salles et on y a été avec Julien d'ailleurs et effectivement c'était magnifique. Alors après, j'en garde pas un souvenir fou. Pour moi, ça ne vaut pas le dessin animé de Disney. Surtout qu'il y a un petit, sans vouloir spoiler, il y a un petit changement. Enfin, ils ont omis un détail à la fin qui pour moi est quand même assez important. Mais c'est vraiment.
Mais c'était
très,
pour permettre le 2.
Beau. Très très beau. Non, mais très même, très beau.
Ce que vous êtes en train
c'est
de voir, si vous êtes premium. Et puis si vous n'allez pas.
C'est de l'image de synthèse.
C'est de l'image de synthèse quand même.
Tout est en image de synthèse.
Techniquement, c'est ouf.
Non mais c'est un. Techniquement, c'est incroyable. Mais c'est vraiment, fabuleux. C'est du jamais vu. La séquence de Gnou là, qui rappelle le Roi Lion. En plus, clairement dans le film, il y a Timon et Pumba. Il y a un facochère et un lémurien qui se comportent exactement comme Timon et Pumba. Moi, je vous le dis, hein, je pense que dans les 2-3 ans à venir, ils annoncent le Roi Lion avec cette technologie-là. Et alors, franchement, ça le fait, mais grave.
C'est vraiment très très beau. Après, encore une fois, bon, alors ça reprend vraiment après, point par point l'histoire. On la connaît tous, mais c'est vrai.
Il y a même
moi,
les chansons d'ailleurs.
Il y a même les chansons.
Ouais, mais pas beaucoup. Hein.
Mais énormément.
Non,
il y en a
tout.
Il y a la chanson. Il y a la chanson de Balou, voilà. La chanson du Roi Louis et une chanson de Shere Khan, il me semble. Voilà. Donc il y a 3 chansons en tout. C'est vraiment très bien fait. C'est bien joué. Le gamin est vraiment épatant. Et il faut savoir que Disney a récemment signé un contrat avec Nokia. Ils vont utiliser la technologie de la caméra à 360 degrés, la petite caméra Ozo.
Ouais.
Ils prévoient justement de. D'ailleurs, elle a été utilisée à l'avant-première du film début avril. Et ils projettent justement d'utiliser la réalité virtuelle pour des making-of, etc. Mais aussi pour un film à gros budget. Donc, à mon avis, Disney là est en passe de réaliser de belles choses et notamment avec la réalité virtuelle. Donc, ça va être, à mon avis, ça va être du lourd.
Mais en tout cas, le film vous a plu.
C'était pas mal. Après, j'en garde pas un souvenir fou.
L'histoire,
c'était
elle est.
C'est,
elle
la
est
c'est la technologie qui m'a surprise.
Easy listening, quoi. Easy viewing. Hein, ça veut dire. Il se passe pas. Enfin, bon, tu connais le film.
C'est le Livre de
c'est
la Jungle.
Très proche du film. Donc, voilà. T'es pas trop surpris. C'est l'histoire un peu, tu sais, bien gentille. Genre, le petit gamin a certains animaux qui veulent pas qu'il parce que c'est un humain. Bon, c'est pas la folie. Par contre, si
c'est
tu aimes
Disney,
la technologie
Disney,
et si t'as envie de voir un truc où tu te dis, là, moi, je trouve vraiment, là, c'est un milestone, quoi. On n'avait jamais vu ça. C'est à tomber par terre.
C'est à tomber par terre.
Tous les gens qui l'ont vu et avec qui j'ai parlé, c'est ce qui ressort systématiquement. C'est la technique du film.
Oui, parce
film,
que
quoi.
Quand tu connais l'histoire du Livre de la Jungle, que je pense beaucoup de gens connaissent, bon, t'es pas surpris, tu connais l'histoire. Voilà, tu connais l'histoire et c'est pas le Disney le plus surprenant.
Bon, alors,
c'est
le réel d'Iron Man. Hein.
Ouais, mais la technique, c'est une chose. La technique, c'est une chose, mais la durée de vie, ça va ou pas?
Bah 1h20, 1h30,
ouais, c'est pas très long. Par contre, il n'y a pas de rejouabilité en plus, pas de rejouabilité.
Mais il y aura le 2, il y aura le 2.
Bah en DLC peut-être.
Oui, je crois qu'en plus,
ils ont annoncé un 2, ils ont annoncé
c'est
un Mary
Poppins. Pour ça aussi que la fin n'est pas exactement la même.
Il y a un Mary Poppins 2 aussi qui est en cours de production.
Et il y a Bambi aussi qui va être fait en
Bambi version gros bras.
Bill Murray qui double Baloo.
C'est Bill Murray qui double Baloo en VO.
C'est Bill Murray qui fait Baloo en VO.
Baloo, bah oui.
Donc voilà, rien que pour ça, bon, le film gagne en point de sympathie.
Mais moi, j'ai trouvé très impressionnant. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène où Mowgli est enlevé par les singes. Il se retrouve face au roi Louis, qui est un singe gigantesque. Et c'était très, très, très impressionnant cette
très
scène.
Très oppressant, ouais. Ouais,
c'est assez oppressant. Et tu te sens un peu écrasé. Et c'est vraiment très bien fait. C'est assez fantastique cette scène où justement il essaie de fuir du temple des singes. Il y a pas mal de scènes d'action où justement on voit Mowgli qui
existe
saute,
en réalité
qui court,
virtuelle, hein, cette
qui
séquence.
Fuit, et en réalité virtuelle. Effectivement, ça existe, ça doit être incroyable.
Mais
honnêtement, c'est assez fou.
Marque une étape où clairement, désormais, c'est acté. On pourra faire des films sans avoir recours au moindre humain. Voilà, bon, c'est des animaux encore. Hein. L'humain, il est humain pour de vrai. Mais enfin, on y est presque au niveau des humains. Mmh. Mais alors, en tout cas, tu peux faire un film totalement crédible.
C'est clair.
Full fond vert, c'est parti, c'est de la 3D. Et ouais, ça fait pas du tout. T'as pas d'effet de Uncanny Valley. Hein.
Faut vraiment le budget,
ce
quoi, c'est tout.
Genre là, quand tu vois Balou, tu te dis ça pourrait être mon pote et.
Ouais.
En fait, l'Uncanny Valley, ça concerne surtout les humains. Et comme le comédien humain, c'est un vrai.
Ça se trouve, il y a l'Uncanny Valley avec lui, hein, ça se trouve, il a les yeux qui font n'importe quoi aussi. Et puis,
bah
du coup, on y croit pas.
Il est humain.
Oui, je sais,
mais je veux dire, le pelage, la truche, c'est légèrement humide, machin.
Parce qu'en fait, l'Uncanny Valley, ça se situe surtout au niveau des yeux humains. Donc, c'est là.
Non, mais là, vraiment, moi, je vous le conseille, vraiment, surtout si vous êtes fan de l'univers Disney. Après, si vous avez pas trop aimé le dessin animé et que vous êtes pas trop passionné par les nouvelles technologies,
allez vous faire foutre.
Non, c'est pas ça.
Si vous
n'aimez pas Disney, bah oubliez-le. Voilà.
Non, mais pour les gens qui sont très techniciens et qui veulent voir la technologie au niveau, ça peut être intéressant.
Tout à fait. Ouais.
Bon, très bien. Et ben on va passer au dernier hors de cette semaine. C'est
Oubalou.
Romain.
Oui.
Tu me parles d'une série. Netflix,
c'est un cas très particulier. J'avais pas entendu parler du tout de ce truc-là. C'est ma petite sœur qui me l'a recommandé, donc je la salue au passage. Ça s'appelle Terrace House et c'est en fait une télé-réalité japonaise.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui était diffusé sur Fuji TV depuis plusieurs années.
Uh-huh.
Et Netflix, voulant s'implanter au Japon, a fait un deal avec Fuji TV pour diffuser une nouvelle saison de Terrace House sur Netflix. Alors je vous explique, c'est 6 jeunes gens japonais, 3 garçons, 3 filles qui sont mis dans une maison, mais à la différence de n'importe quelle télé-réalité du monde entier,
ce n'est
pas scénarisé du tout, donc par moments ça sent, et ils sont suivis dans leur vie de tous les jours. Par exemple, il y en a une qui est employée de bureau, à un moment on la voit dans...
Ah, ils restent pas enfermés
Non, ils sont pas enfermés, ils font leur vie.
C'est marrant, on dirait un drama.
Et donc en plus on voit vraiment la vie Tokyo Hit, quoi.
On voit ça, et ce qui est marrant, c'est que la diffusion des premiers épisodes a commencé alors qu'ils étaient encore à l'intérieur. Donc des fois ils interagissent avec des gens qui leur parlent de ce qu'ils ont vu dans l'émission. Ils sont pas du tout coupés du monde. Des fois, à un moment, on les voit dans l'appartement en train de regarder des bandes annonces pour l'émission sur leur écran d'ordinateur. Et moi, là où je trouve ça particulièrement intéressant, c'est qu'on voit le fonctionnement, les rapports entre eux, des jeunes japonais. Et c'est là où on voit qu'ils ne fonctionnent pas du tout comme nous, quoi. Il y a des moments où il va y avoir des tensions et des trucs, et nous, c'est à s'arracher les cheveux, parce que nous, d'une, il n'y aurait pas eu de tension dans cette situation-là. Et il y a des moments où
sauf si c'est moi et Julien, parce que
vous engueulez même quand vous êtes d'accord, de toute façon. Donc
ben non, c'est des fois c'est juste des histoires de texto. Ouais, genre t'as envoyé un texto à quelqu'un, l'autre il l'a super mal pris, ou des fois ils se disent pas des trucs, ou des fois ils sont menaçants mais d'un calme. Il y en a un qui regarde, il y a une scène entre deux des mecs, et l'autre il s'explique sur un truc. Et l'autre il fait si tu recommences ça, mais... et encore moi je parais plus agressif en disant si tu recommences, mais il lui dit tellement calmement si tu recommences ça je serai obligé de te casser la figure. Et l'autre il fait ok,
plus calmement, d'accord, suis ma scène.
Et c'est marrant. Et un autre truc que j'aime bien, c'est que genre 2 ou 3 fois par épisode ils coupent, et là ils vont sur un plateau où t'as un panel de comédiens, d'humoristes japonais qui commentent ce qu'ils viennent de voir. Et au début j'étais un peu, je les regardais comme ça, mais plus la saison avance, plus je les trouve drôles. Et
chaque épisode, c'est combien de temps?
C'est une demi-heure.
Et il y en a combien?
Il y en a 18.
Ah oui, d'accord.
J'ai vu les 15 premiers pour l'instant.
D'accord.
Et apparemment, il y a eu des épisodes supplémentaires qui n'ont pas encore été mis sur Netflix. Et en allant voir sur le site officiel de l'émission en japonais, j'ai vu qu'il y a déjà une nouvelle saison avec d'autres. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que ça existe.
Puis en tout cas, visuellement, ça a l'air à peu près 45 000 fois moins cheap que des vieux trucs IKEA style peints en vert, jaune, bleu.
Alors déjà,
la maison du secret là, et des compagnies comme
la maison, la maison, elle défonce. Enfin.
Bah, c'est parce qu'ils ont des caméramen, là, c'est pas des caméras fixes dans la maison.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est, ouais. C'est un super
et en plus, et des fois, forcément, tu les vois un peu à l'extérieur. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez un petit peu le Japon, ça vous donne tellement envie d'y aller. Ils m'ont fait découvrir des endroits que je connaissais pas. Et franchement, c'est, tu vois, rien que le générique, quand
ils
tu vois les plans.
Ils sont moins beaufs que nos Français.
Ah non, ils sont pas beaufs. Et après, il y a certains personnages qui sont assez antipathiques. Non, mais c'est pas forcément
c'est
volontaire. Parce que des fois, les humoristes, les gens qui commentent ce qu'on vient de voir, ils vont pas réagir sur les mêmes trucs que moi. Et j'en parlais avec ma sœur. Et il y a un personnage, c'est l'étudiante en médecine. Mmh. Elle est insupportable. Insupportable vraiment. Et eux,
mais insupportable,
elle, c'est ma préférée.
Insupportable à l'échelle japonaise. Donc c'est à dire que c'est pas.
Non mais si. Je pense que pour pour un occidental, c'est elle. Et elle est en plus un peu intéressée et tout. Elle fait des trucs. Elle jongle avec un des gars qui est intéressé par elle et ça m'a pas trop plu. Mais c'est normal.
Ça m'a pas
c'est
trop plu.
Non mais c'est normal. T'as des dans ce genre d'émission, t'as des personnages que t'aimes plus que d'autres et voilà.
Bien sûr.
Et en tout cas, oui, belle découverte. Alors que moi, je suis pas du tout client de la télé-réalité, ça me gonfle. Mais là, l'avantage, c'est qu'ils te prennent pas des crétins. Celle que j'aime pas, elle est en quatrième année de médecine, donc ça te montre.
Il y a un niveau qui est relativement élevé par rapport aux émissions de télé-réalité.
Et c'est ce que c'est que du thé et pas du team, quoi.
Voilà, c'est ça, du thym. C'était du thym et du team.
Oui, il a dit du team.
Et donc voilà, et si le Japon vous intéresse, que les Japonais vous intéressent, regardez Terrace House, c'est très sympa. J'espère juste que Netflix va diffuser la suite.
Voilà. Très bien, bah écoute, merci pour ce conseil. Moi, j'ai suivi le tien pour Daredevil. J'ai fait deux épisodes de la saison 2 pour l'instant. Ce Punisher.
Punisher,
il me plaît bien. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé la bonne formule avec lui.
Ah, il est
ils ont
excellent.
Trouvé le bon mec.
Moi, c'est mon personnage préféré de la saison.
Bon, bah en tout cas, merci pour vos hors-jeux de cette semaine.
Merci à tous.
Et puis, j'ai envie de dire maintenant, on va arrêter le podcast. Et c'est la fin,
a
c'est
pas
fini.
Dit son hors-jeu.
Oh, mais son hors-jeu, c'est les croquettes.
Bah oui, ah, son croco. Bébé.
Bah oui,
bébé. Va voir papa.
Bon, alors pour ceux qui ne sont pas premiers, évidemment, ça n'a aucun sens. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a Epona qui vient
au pied de son papa.
De se mettre au pied de Julien. Donc, merci Romain, merci Julien,
merci
Carole. Merci évidemment à vous qui nous avez écoutés ou regardés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires ci-dessous sur les jeux, les thèmes que nous avons évoqués. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos wins et vos fails de la semaine. Pourquoi pas, et je rappelle aussi, vos hors-jeux. N'hésitez pas à envoyer un petit hors-jeu à Julien en face cam là, pendant 3 minutes. Vous lui envoyez un petit MP, un truc que vous avez posté sur YouTube.
Face cam,
très important, face cam. N'hésitez pas à lui envoyer et on en parlera. Justement on le diffusera aussi pendant un hors-jeu. Oui,
Robin. Je repense à Terrace House, la drague à la japonaise.
Oui.
Pour un français, c'est à s'arracher les cheveux.
Vas-y, un exemple.
Et ils se déclarent pas, ils font rien. Est-ce que je t'intéresse? Oui, tu m'intéresses. Est-ce que tu m'intéresses? Oui, je t'intéresse. Est-ce que tu vas aller plus loin et truc? À un moment, il y en a une qui plus loin dans la saison, elle veut que le mec déclare ses sentiments enfin. elle lui prépare une sorte d'omelette japonaise et dessus elle écrit au ketchup lâche. et c'est ça qui fait péter un alors câble que... au mec. Et là il va dans sa chambre genre pour l'embrasser alors qu'il y a ses deux autres roommates avec elle. Et là la nana elle flippe. Et donc en fait le mec il s'arrête et il repart.
Alors que la drague européenne, on sait bien, c'est une fille qui appelle un dépanneur. Le dépanneur arrive avec un masque sur la tête, etc.
Bon, il y a du foin dans la pièce.
Ouais, c'est totalement autre chose. Bref, merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast qui devrait, si vous regardez cette table là qui est devant nous, porter sur quelque chose, un indice quelque part là sous le doigt de Julien
épisode.
Si vous êtes premium, voilà, sur un quatrième épisode normalement on devrait vous en parler dès le prochain podcast. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Ciao.
Ciao.